Bonsoir, bonsoir à vous qui nous faites l'amitié d'être présents ce soir au Centre Sèvres. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent en région. Et bonsoir aux auditeurs de RCF, fidèles à leur radio préférée. L'an passé, à pareille époque, presque jour pour jour, nous nous retrouvions pour débattre des états généraux de la bioéthique, organisés en 2018 par le Comité consultatif national d'éthique comme une phase préalable à la révision prévue de la loi de bioéthique. Depuis, ces états généraux ont eu lieu, divers rapports ont été produits, mais le Parlement, confronté sans doute à d'autres urgences, n'a toujours pas entamé ses délibérations à ce sujet. Cela n'empêche pas notre réflexion de se poursuivre, et nous avons donc programmé pour ce mardi d'éthique publique de février une soirée consacrée à l'essor des tests génétiques. Tout prédire et prévenir, quels bénéfices et quels risques. Les tests génétiques sont de plus en plus présents dans la pratique médicale et feront l'objet de nouvelles réglementations dans la future loi de bioéthique. Ils permettent en particulier de diagnostiquer une maladie déclarée, de prédire la survenue d'une maladie chez un sujet à risque, de dépister des maladies au stade de l'embryon, de dépister chez les couples le risque d'être porteur sain. Face au développement de ces techniques, quels sont les repères éthiques actuels ou à préconiser? Quels sont les bénéfices, mais aussi les risques qu'ils présentent? Pour nous éclairer ce soir sur ces questions difficiles, nous avons le plaisir d'accueillir, et nous les remercions de leur présence, le professeur Arnold Munich, chef du département de génétique médicale de l'hôpital Necker Enfants Malades, président du conseil d'administration de l'Institut des maladies génétiques. Le professeur Munich est l'auteur, en 2016, chez Plon, de « Programmer, mais libre, les malentendus de la génétique ». Le père Bruno Sainteau, jésuite, responsable du département éthique biomédicale au Centre Sèvres. Et je dois excuser le professeur Jean-Noël Fissinger, qui devait introduire ces débats et qui est retenu par la grippe. L'histoire ne dit pas s'il avait été vacciné ou pas. Et donc c'est le professeur Arnold Munich qui ouvre nos débats.
Merci beaucoup, merci à tous. Je suis absolument enchanté d'être ici parmi vous, un peu triste de l'absence de Jean-Noël. Je vous certifie qu'il est malade, parce qu'il y a quelques minutes, il avait beaucoup de fièvre. Je suis très heureux d'être parmi tant de visages connus, tant d'amis, tant de collègues, que je voudrais saluer collectivement, et puis tant de personnes qui m'apprenaient beaucoup de choses quand j'ai le privilège de venir vous voir, et je crois que j'en prendrai de vous autant et sinon plus que vous pourrez apprendre de moi. Donc, j'ai prévu cet exposé de manière un peu didactique, mais le sujet est si complexe qu'il vaut mieux, faire un effort de formalisme pour être sûr de ne pas être mal compris, puisqu'il était question de malentendus dans ce livre que j'ai écrit. Donc, je voudrais vraiment être sûr qu'on est bien d'accord sur le sens des mots, parce qu'il y a de toutes sortes d'amalgames dans les termes utilisés. Il vaut mieux savoir exactement ce que parler veut dire. Donc, on va parler ce soir de test génétique. Qu'est-ce que c'est qu'un test génétique? C'est, au fond, un agrandissement, comme quelqu'un qui agrandirait une photo. C'est un fort grossissement sur une région de notre génome. Vous savez qu'on a 25 000 gènes, 3 milliards de nucléotides, 3 milliards de composants par génome, qui sont répartis en 25 000 gènes. Il y a plein de zones silencieuses entre ces gènes, mais il y en a 25 000 qui sont identifiés, qui codent pour des protéines. Et bien, un test génétique, ça consiste à regarder, à scruter l'intimité du vivant au niveau d'un gène particulier, un des 25 000 gènes. Donc c'est une étude au niveau du gène, un fort grossissement d'un gène. Que ce gène soit des gènes que nous recevons de nos parents, ou que ce soit le gène d'une tumeur recueillie par une biopsie, par exemple. Donc dans un cas, on parle de génétique constitutionnelle, c'est celle que nous devons à nos parents, et puis les hasards de la vie, ce sont les cancers qui ne sont autres qu'une manifestation différente somatique du génome. Donc on peut faire des tests génétiques soit sur le sang, on sera informé de ce que nous avons reçu de nos parents, soit sur des tumeurs, et ça concerne la génétique des cancers. Donc c'est ça un test génétique, c'est un fort grossissement sur une région précise du génome à des fins diagnostiques. Alors, vous verrez dans cet exposé que le fil rouge, finalement, c'est que toute cette histoire, c'est ni bon ni mauvais, c'est bon et mauvais à la fois. Alors, il y a des tas de choses qui sont indiscutablement des avancées considérables. Je suis pédiatre, vous l'avez rappelé, et par conséquent, j'ai pu constater dans ma vie professionnelle combien l'avancée des connaissances en génomique ont simplifié le travail des pédiatres et des médecins en général, qu'on soit neurologue, qu'on soit cardiologue, qu'on soit oncologue. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui faire sur une simple prise de sang, en consultation, le diagnostic d'une maladie. Quand j'étais interne, il fallait 3 semaines d'hospitalisation pour faire une biopsie musculaire pour rechercher une myopathie, faire des ponctions lombaires, faire des électromyogrammes ou des vitesses de conduction nerveuse, toutes sortes de misères à des enfants qu'on gardait 3 semaines, pour pas dire plus. Ben aujourd'hui, ce qui prenait 3 semaines d'hospitalisation, ça peut se discuter et se décider dans le délai d'une courte consultation. Donc il y a un essor considérable au niveau du diagnostic d'une maladie lorsqu'elle est déclarée. Donc un patient consulte, il est suspect d'avoir une maladie génétique, on va le tester sur une simple prise de sang et on reverra la famille et le patient peu après pour rendre le diagnostic. Alors à côté des maladies déclarées, il y a ce qu'on appelle le diagnostic présymptomatique, dont je vais vous parler plus en détail tout à l'heure, qui consiste à prédire, éventuellement prévenir, mais le plus souvent prédire, la survenue d'une maladie chez un sujet qui est à risque, parce que son père ou sa mère avait une maladie neurologique héréditaire, héritable. On peut savoir, avant de la déclarer, si on est susceptible d'exprimer cette maladie. C'est le diagnostic présymptomatique dont je vous parlais dans un instant. Le troisième sujet, qui est un sujet très sensible dans différentes communautés, dont celle-ci, ici, c'est l'usage de la génétique pour des tests prénatales ou préimplantatoires. Alors là, il s'agit bien de prévenir la survenue d'une maladie d'une particulière gravité et incurable. Il ne s'agit pas de tests de convenance, mais il s'agit bien d'indications médicales, et là encore, je vous en parlerai. Il y a un quatrième sujet qui occupe beaucoup le législateur, puisqu'il s'est invité dans la révision des lois de bioéthique de 2018, et je vous en parlerai en détail, parce que je voudrais vraiment partager ça avec vous et avoir votre sentiment. C'est ce qu'on appelle le dépistage des couples à risque d'être porteurs sains d'une maladie. Alors, quand on est apparenté à un enfant qui a la mucoviscidose, il y a un intérêt évident à savoir si on est soi-même, quoique bien portant ou bien portante, porteur sain, susceptible de passer la maladie, si son conjoint est atteint, à la génération suivante. Mais le sujet s'est invité parce que il y a beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles qui demandent des tests, ce qu'on appelle en anglais carrier screening, de dépistage des porteurs de maladies génétiques sans qu'il y ait au préalable un cas dans la famille. C'est ce qu'on appelle le carrier screening, donc le dépistage des porteurs sains sans même qu'il y ait le moindre antécédent familial justifiant ce test. Et puis il y a le dernier, et pas le moindre parce que je crois que c'est la plus brillante avancée, c'est ce qu'on appelle la pharmacogénomique, c'est l'utilisation des tests génétiques pour la juste prescription d'un traitement anticancéreux. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Il y a des progrès gigantesques accomplis dans le traitement des cancers grâce à la carte d'identité des tumeurs qui permet de trouver pour chaque patient et pour chaque type de tumeur et pour chaque test génétique le bon médicament. Donc, on parlera aussi de cela. Donc, tout ça ensemble, ça fait environ 500 000 tests génétiques par an en France, grosso modo. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et on comprend que le législateur et que l'opinion se soucient des modalités dans lesquelles ces tests sont réalisés. Alors, comme je vous l'ai présenté, globalement, c'est une avancée. Alors, pourquoi y a-t-il débat? Pourquoi est-ce que cette médecine de précision, ou cette génomique de précision, ou dite personnalisée, fait-elle débat? C'est vrai que les régions transcrites et les régions exprimées du génome sont toutes connues maintenant, on peut toutes les tester. En plus, ça coûtait cher, maintenant c'est pour une bouchée de pain, quelques centaines d'euros, peut-être 200 euros par test, 250. Et donc les coûts d'exploitation chutent de manière considérable. Ça coûtait extrêmement cher, c'est devenu pratiquement à la portée de toutes les bourses. Et puis on connaissait 8000 maladies chaque année. On découvre davantage de maladies. On sera bientôt pratiquement à 25 000 maladies différentes, autant que de gènes. Un moment viendra, prochainement, où, à la vitesse asymptotique qu'on observe aujourd'hui, il y aura pratiquement une maladie par gène ou une gène par maladie. Un gène par maladie. Donc, tout ceci va dans le sens de la simplification, de la professionnalisation de ces pratiques avec des coûts qui les rendent accessibles en clinique. Mais il y a un mais. Et c'est là, et c'est peut-être l'essentiel de ce que j'ai à vous dire ce soir, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on avance un peu vite, pour ne pas dire à marche forcée. C'est-à-dire qu'il y a d'innombrables variations dans l'ADN, dans nos gènes, dont la signification est inconnue. Donc il y en a dont on est certain de la signification, normale ou pathologique, mais il y en a un très grand nombre, immense, qui sont de signification inconnue. En anglais, on parle de variants de signification inconnue, variants of unknown significance. Alors, vous voyez bien que ces informations, ces tests génétiques, qui comportent un lot considérable d'incertitudes, exposent à ce que j'ai pas peur d'appeler un désastre sanitaire potentiel. Je suis confiant que ça n'arrivera pas. Mais ce risque menace, pas dans notre pays, peut-être ailleurs. C'est-à-dire que non expliqués, non contrôlés, ces tests peuvent causer des désastres. Je vous en donnerai quelques exemples tout à l'heure. J'aime bien prendre la comparatif du scandale sanitaire des génériques frauduleux. Vous savez que les fraudes aux médicaments génériques causent près d'un million de morts par an dans le monde parce que les génériques sont trafiqués, ils sont achetés par des pays pauvres sur Internet. Et en fait, on achète du poison, des médicaments qui ne sont pas contrôlés. Je dis bien, c'est pas en France, c'est en Extrême-Orient, en Afrique. Il y a véritablement une dissémination des produits frauduleux qui cause un très grand nombre de victimes. Eh bien, je me demande parfois si les tests génétiques ne seront pas un jour, peut-être que je noircis le tableau, pardonnez-moi, ne seront pas l'équivalent de ces fraudes au générique parce que, tout ce qui est techniquement faisable n'est peut-être pas éthiquement souhaitable ni scientifiquement rigoureux. Donc il y a un décalage entre ce qui est techniquement possible, scientifiquement solide, éthiquement souhaitable, économiquement supportable. Mais tout ça est écrasé par le marché. Parce qu'il y a un grand acteur qui s'est invité là-dedans, c'est le marché. C'est la marchandisation des tests. Et peu importe au marché qu'il y ait des variantes de signification inconnues. Ils s'en moquent du moment qu'ils vendent leurs tests. Exemple, 23andMe, Google et toute la propagande autour de ces tests. Donc si vous voulez, le fil rouge de cet exposé de ce soir, c'est de partager avec vous ce qui est mon opinion. Il y a d'autres généticiens dans la salle, peut-être émettront-ils un avis différent. Mais je pense qu'on a été, on va un peu vite dans l'usage diagnostic que l'on fait de ces tests. Il y a un grand nombre de variations qui sont tout à fait incertaines. De sorte que c'est pas parce que c'est techniquement possible que ipso facto ça doit passer librement en application pratique, ni que c'est éthiquement souhaitable. Donc c'est là le cercle infernal, la tyrannie de la technique, qui fait que parce que c'est techniquement possible et finalement pas trop cher, pourquoi s'en priver? Mais qu'est-ce qu'on a pour son argent? Qu'est-ce qu'on a pour 200 euros? Si c'est des informations solides, raisonnables, raisonnées, peut-être, mais comme beaucoup de ces informations qui circulent sont totalement surinterprétées, 23andMe en particulier, je m'inquiète de la dissémination de ces tests. Alors, on a fort heureusement en France une loi de bioéthique, celle qu'on va réviser, et cette loi est révisée donc régulièrement, et elle a donné mandat à deux agences de réguler les tests génétiques en France. Il y a des recommandations des bonnes pratiques qui sont édictées par deux agences, l'Agence de la biomédecine et la Haute Autorité de Santé. Ces agences sont extrêmement attentives, Dieu merci, à la façon dont ces tests sont réalisés dans notre pays. C'est-à-dire que En France, on ne peut pas faire un test génétique s'il n'a pas été prescrit, soit par un généticien, soit par un spécialiste qui a des qualifications en génétique. Ces tests doivent être précédés d'une consultation dédiée à cet effet, une consultation ad hoc, pour informer les patients, pour leur faire comprendre ce qu'on peut attendre et ne pas attendre d'un test. Les conséquences possibles de ces résultats. Et je vous rappelle, le diagnostic présymptomatique sur les mineurs, je vous le redirai tout à l'heure, un mineur de moins de 15 ans, ne peut pas être testé s'il n'a pas de symptômes. Donc tout est fait pour protéger nos concitoyens contre des tests qui seraient bradés. Donc consultation avant, consentement éclairé, expliqué, signé, consultation après de restitution et une restriction aux seules personnes qui demandent quelque chose qui est audible, un diagnostic pour une personne qui est malade, pas pour un enfant mineur asymptomatique, pas de diagnostic de convenance pour rechercher des caractères naturellement sans caractère pathologique, comme la couleur des yeux ou des cheveux, tout ça est complètement hors champ, et ne pensez pas une seconde que ceci se pratique, ça ne se fait absolument pas. On ne le fait que pour des caractéristiques pathologiques, que pour des maladies, et pas pour des convenances personnelles. Mais tout ça, ça fait quand même beaucoup de travail, et si vous comptez tout le temps qu'il faut pour expliquer avant, pour s'expliquer après, tout ce temps extrêmement long, vous comprenez que finalement le test génétique, le problème des tests génétiques, c'est pas ni des séquenceurs, ni des ordinateurs, c'est une question de dialogue, d'humanité, de temps consenti, d'explication, avant et après le test. Donc tout ça, ça nécessite des professionnels formés, qui soient médecins ou conseillers en génétique. Ça nécessite de mettre en garde l'opinion contre les dérives commerciales, dont je vous reparlerai tout à l'heure. Donc, au fond, contrairement à l'idée reçue, plus il y a de techniques, plus il faut d'humanité. Plus ça devient compliqué, plus il faut consentir de temps pour être sûr de bien se comprendre. Donc quand j'entends et quand je lis que l'intelligence artificielle va remplacer les professionnels, je me demande comment ça sera possible. Justement, plus il y a de techniques, plus il faut avoir en face de soi quelqu'un qui est capable de comprendre ce qui se passe et le ressenti du sujet. Donc je ne crois pas du tout que l'intelligence artificielle soit à même de remplacer aujourd'hui ce temps privilégié qui est celui de la consultation, du dialogue singulier entre un patient, un consultant et un professionnel. Donc j'entends partout, à la radio, le dimanche, j'entends dire qu'on aura des robots, des séquenceurs, des machines, qu'on sera en ligne directe avec les boîtes, les big pharma qui vont inventer les drogues. Je vois tellement de parents détruits par les paroles ou par les tests qu'on leur a envoyés par courrier ou qui ont été divulgués sans consultation, que je me demande quel monde on prépare à la génération qui sera celle de l'intelligence artificielle. Tant il est important de consentir du temps pour ces patients en quête d'une information génétique. Alors, j'ai prévu mon topo en trois parties assez courte. La première partie, c'est qu'est-ce qui est autorisé aujourd'hui en France? Qu'est-ce qui est actuellement en service? Quelles sont les innovations des deux dernières années? Et où sont, à mon avis, les menaces sociétales? Voilà mon plan. C'est un peu scolaire, mais c'est pas grave. Alors, d'abord, ce qui est autorisé et en service. Ce sont des tests génétiques, mais pas n'importe lesquels. Que ce soit des cancers familiaux, ou des maladies cardiovasculaires, ou des maladies de l'enfance, notre institut, comme d'autres grands instituts, c'est la même chose à Pompidou, c'est la même chose à l'Institut du cerveau et de la moelle, eh bien, les professionnels raisonnables s'en tiennent à tester, non pas tous les gènes de tout le monde, mais tester les gènes connus et publiés pour donner le dit symptôme ou la dite maladie. Donc, il n'est pas question tester tout chez tout le monde, il est question de répondre à la question que pose le consultant ou que pose le père ou la mère de cet enfant. Mon enfant est épileptique, mon enfant est sourd, mon enfant est autiste, mon enfant est malvoyant, mon enfant est de petite taille. Docteur, quel est le diagnostic? Où en sont les avancées des thérapeutiques, comment faire pour éviter que ça se produise? Donc c'est ça les questions que posent les parents. Ils ne demandent pas à savoir ce que leur réserve l'avenir à ces enfants. Ils veulent savoir quel est le diagnostic au moment où la maladie pose un problème de diagnostic. Donc cette approche me paraît raisonnable à plus d'un titre. D'abord, le test est extrêmement robuste. D'autre part, il est accessible, ce n'est pas une charge trop importante pour la solidarité nationale. Il est d'une grande qualité, la qualité de la capture et du séquençage est remarquable, et on arrivait, dans les dernières années, dans notre institut, mais dans d'autres aussi, à passer de quelques 20 ou 30% de diagnostics des maladies génétiques à quelque chose qui est autour de 50, 60, 70, 80, 90%. Donc, l'essor de cette technique qui consiste à séquencer les gènes connus et publiés, dès lors qu'on arrive à le passer en application pratique, ce qui n'est pas le cas dans tous les hôpitaux, mais dans les grands CHU, oui, bien ça permet d'arriver à un diagnostic et d'enfin nommer la maladie. Nommer le mal, c'est déjà un peu le soigner. Donc tout ceci, si c'est bien fait par des professionnels avisés, et quand on s'en tient à répondre à la question qui se pose, c'est bon, c'est bien pour les gens. Parce que nommer le mal, encore une fois, c'est déjà un peu le soigner. Alors tout ça, c'est rendu possible par des liens étroits, dans les grands hôpitaux universitaires français, entre le soin et la recherche. Si on a pu faire tout ça dans les 4 ou 5 dernières années de la vie de notre institut, c'est parce que les chercheurs et les médecins travaillent ensemble sous le même toit. Et donc, les hospitaliers, les médecins que nous sommes, avons accès à des plateformes fantastiques qui sont les plateformes qu'utilisent les chercheurs. C'est comme si on voulait faire un voyage en avion et qu'on vous offrait une navette spatiale de Cap Canaveral. C'est extraordinaire parce que les patients qui étaient en quête de réponse se trouvent dans un environnement, cet institut extraordinaire, où ils ont accès au savoir des chercheurs, aux outils des chercheurs, aux séquenceurs et aux ordinateurs des chercheurs. Donc, bien actualiser, cette stratégie de diagnostic par panel permet d'éviter les catastrophes dans la mesure où on ne répond qu'à la question posée et pas à d'autres questions. Et ça me rassure parce que je veux avant tout éviter de faire du mal aux gens. La deuxième chose qui est pratiquée grâce à ces tests aujourd'hui en routine, c'est le diagnostic prénatal. On ne le fait pas de gaieté de cœur. On n'a pas fait médecine pour interrompre les grossesses de nos patients. C'est l'échec de la médecine. Le prénatal ou le préimplantatoire, ce n'est pas une victoire, c'est un échec. C'est qu'on ne sait pas comment faire autrement. Comme aucune solution est bonne, on cherche la moins mauvaise. Et la moins mauvaise, pour certains professionnels, ça consiste à proposer au couple, qui ensuite en dispose, décide d'y recourir ou pas, ça consiste à interrompre la grossesse d'un fœtus qui serait atteint. Ou à ne pas transplanter un embryon qu'on a testé in vitro et dont on sait qu'il va être donné naissance à un enfant malade. Encore une fois, il y a un nombre limité d'indications. Ce sont des affections d'une particulière gravité, incurables. Et donc, nous sommes extrêmement attentifs, là encore, à ne pas élargir les indications du prénatal et du préimplantatoire à des affections qui ne seraient pas d'une particulière gravité ou qui seraient curables. Il nous arrive chaque semaine, lors des réunions pluridisciplinaires avec les gynécologues, les échographistes, les néonatologistes et les généticiens, de discuter au cas par cas. C'est de la casuistique. Chaque dossier est discuté individuellement pour s'assurer de la validité du diagnostic, de la solidité des évidences scientifiques et du bien fondé de la demande. Par conséquent, nous nous autorisons, en tant que centre pluridisciplinaire du diagnostic prénatal, à refuser, dans certains cas, une demande de diagnostic prénatal ou d'interruption de grossesse. Nous sommes surveillés par les agences, l'agence de la biomédecine, qui demande régulièrement des comptes. Qu'est-ce que vous avez fait? Pour quelle indication? Pour combien d'enfants? Donc nous sommes très surveillés. Pour le prénatal, comme pour le diagnostic génétique sur l'embryon fécondé in vitro, ce qu'on appelle le diagnostic génétique préimplantatoire, pour lequel il y a 5 centres en France, et pour lequel nous sommes aussi habilités à pratiquer ces tests. C'est naturellement pas la panacée universelle, mais pour certains, il est moins cruel de recourir au diagnostic génétique préimplantatoire que d'interrompre une grossesse. Que ce soit pour des raisons de confessionnel, mais indépendamment des motifs confessionnels, un certain nombre de parents viennent nous demander un diagnostic génétique préimplantatoire lorsque l'enfant vivant malade et qui fait l'objet de tous les soins est devant nous. Vous pensez bien combien il est cruel pour les parents de faire une interruption de grossesse pour le double d'un enfant qui est vivant, qui est malade mais qui est vivant. Donc ils ont beaucoup de réticence à recourir au diagnostic prénatal lorsque l'enfant malade est vivant et fait l'objet de tous les soins. C'est dans ces circonstances qu'ils demandent à recourir au diagnostic génétique préimplantatoire pour éviter d'avoir à interrompre une grossesse. Là encore, je vous dis bien que ce n'est pas la panacée. Nous sommes à la recherche du moindre mal. Le diagnostic présymptomatique, c'est le troisième qui est en application pratique, pas tant dans un institut comme le mien, mais beaucoup chez nos collègues de généticiens des adultes, qui font un travail remarquable, que ce soit à la Salpêtrière, que ce soit à Pompidou, en cardiovasculaire et ailleurs. Alors là, de quoi s'agit-il? Il s'agit de proposer à des individus qui n'ont aucune maladie, mais qui sont à risque de la développer, la possibilité de savoir si ils sont porteurs de cette maladie, s'ils vont, un jour ou l'autre, risquer de la développer. Alors, cette demande, elle émane de gens qui sont curieux de savoir s'ils vont avoir une maladie qu'avaient leurs parents, qui n'ont pas encore, qui n'auront peut-être pas, mais qu'avaient leurs parents. Mais on entend aussi ces questions chez des jeunes couples qui veulent avoir des enfants, et qui savent pertinemment que la maladie de leurs parents a commencé après l'âge de la reproduction, et qui aimeraient savoir, au moment où ils font des enfants, si ils sont à risque de transmettre. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est avant le début de... Je pense à la chorée de Huntington, par exemple, qui est une maladie neurologique épouvantable, dont le début est habituellement postérieur à l'âge de la reproduction. C'est-à-dire que des couples qui viennent nous dire, écoutez, docteur, on aimerait beaucoup avoir des enfants, mais si je dois transmettre la maladie et la mort, c'est insupportable. Donc est-ce que vous pourriez me dire si je suis porteur ou pas porteur? Alors cette question-là, elle n'est pas traitée par-dessus la jambe. Je voudrais rendre hommage à ceux qui, depuis 20 ans, font ce travail à la Salpêtrière pour la chorée de Huntington et d'autres maladies neurologiques. Et rendre hommage aussi à Josué Fengold, au passage, qui a été un pionnier dans la matière. Imaginez-vous, mesdames et messieurs, que ces consultations vont durer des heures. On ne va pas se contenter de faire une prise de sang et de mettre l'ADN dans la machine. Ça va être des heures de discussion préalable pour informer pleinement le sujet, pour être sûr de sa détermination à faire ce test, pour comprendre mieux ses motivations, pour lui faire toucher du doigt ce qu'on peut attendre et ce qu'on ne peut pas attendre d'un test génétique. Eh bien, ça vous surprendra sûrement, mais sur 100 consultants dans le service de neurogénétique de la Salpêtrière, pour cette question-là, sur 100 consultants, 92% abandonnent la démarche. Ayant compris ce qu'on peut en attendre, les incertitudes, les doutes, ayant peut-être eu aussi un peu d'écoute, c'est ça qu'ils sont venus chercher aussi. Parce que derrière la question, il y a une autre demande qui est derrière la question. C'est ça le travail de généticien. C'est de comprendre quelle est la question qui est derrière la demande immédiate. Il y a une demande immédiate et il faut qu'on comprenne si c'est bien ça le sujet de la conciliation, s'il n'y a pas une demande d'écoute, d'attention, d'empathie derrière cette question immédiate. 92% des personnes abandonnent. Parce qu'ils comprennent qu'entre prédire et médire, il n'y a qu'une syllabe, et que c'est toute la différence. Alors, j'aime bien citer ces deux textes parce que ils illustrent extraordinairement la modernité et de la Bible et la tragédie grecque, parce que la Bible et Sophocle, ils ont dit ça mieux que personne dans Tirésias, dans Œdipe roi de Sophocle, dit, pour ceux qui lisent le grec, c'est écrit en grec, pour les autres, c'est écrit en français, hélas, hélas, dit Tirésias. Il est terrible ce savoir, lorsque savoir ne sert de rien à celui qui le reçoit. Donc c'est une extraordinaire défi et d'une actualité cuisante pour nous, parce que c'est exactement le sujet. Et même chose l'Ecclésiaste, quelques siècles avant, abondance de savoir, abondance de souffrance, celui qui augmente son savoir augmente aussi ses souffrances. Donc tout le travail du généticien, et là, je trouve la noblesse de la génétique, justement, en particulier en France, c'est savoir ne pas réduire la question à un problème technique, moléculaire ou informatique. C'est de prendre en compte toute cette dimension d'humanité. C'est ça, la génétique médicale, en tout cas en France. C'est un sens aigu du temps qu'il faut consentir à des gens qui ont une attente difficile à exprimer pour des informations difficiles à entendre. Donc c'est ça, à mon avis, la noblesse et de cette discipline. Alors, je vais passer maintenant à quelque chose qui est très important aussi pour un très grand nombre d'entre nous, c'est les progrès de la médecine prédictive en oncologie, les tests prédictifs en oncologie. Vous savez qu'il y a une part des cancers qui ont une composante héréditaire, mais souvent variable. L'expressivité est variable, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien si on va ou non exprimer la maladie, avec quelle sévérité, à quel moment. Il y a beaucoup de flous qui sont montrés sur la diapositive. C'est vrai pour le cancer du côlon, c'est vrai pour le cancer du sein, c'est vrai pour le cancer de l'ovaire, et bientôt pour le cancer de la prostate. Donc on sait, pas parfaitement pour la prostate, assez bien maintenant pour le cancer du sein et du côlon, qu'il y a des gènes de prédisposition à ces cancers, avec une forte probabilité de développer la maladie lorsqu'on en est porteur. Alors, prenons l'exemple du cancer du sein, une femme sur sept, me dit-on, tellement fréquent. Il y a un certain nombre de cancers du sein qui sont des cancers à caractère familial. Et puis il y a deux gènes pour eux, pour rendre compte de ces cancers familiaux du sein, BRCA1, BRCA2. Alors, ce qui est très particulier, qu'il faut que vous sachiez, si vous ne le savez déjà, c'est que lorsqu'une femme a un cancer du sein, on lui fait des tests génétiques, et s'il y a une mutation de BRCA1 ou BRCA2, on propose à cette femme de faire une mastectomie, une amputation du sein, non pas du côté de la tumeur, mais aussi on lui propose une mastectomie contralatérale, donc une mammectomie bilatérale. D'accord ? Alors maintenant, imaginez-vous ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, grand pays, 50% des femmes qui ont un cancer du sein sont mastectomisées, donc amputées définitivement, de manière bilatérale, sur la base de variations de l'ADN de signification inconnue. Je répète pour être sûr d'avoir été compris. Aux États-Unis, aujourd'hui, 50% des mastectomies bilatérales sont faites à la demande des personnes. Hein. Personne ne force une femme à se faire mastectomiser d'une manière bilatérale. On s'aperçoit que 50% des mastectomies bilatérales sont faites pour des variants dont on n'est pas sûr du caractère pathologique. Mais au bénéfice du doute, et c'est aussi une question culturelle, qui n'est pas notre culture. Pour une question culturelle, Angelina Jolie et les autres préfèrent maximiser le risque et se faire amputer des seins et des ovaires plutôt que d'encourir le risque de développer plus tard un cancer. Donc vous voyez là aussi une dimension qu'on n'a pas encore abordée qui est génétique et société. Il y a des sociétés comme les nôtres qui acceptent un certain degré de doute et d'autres qui sont totalement imperméables au doute, qui n'acceptent pas le doute. Mais il y a quand même, de la part de certains généticiens, me semble-t-il, un peu d'abus de confiance de procéder à tant de mastectomies si on n'est pas sûr de ce qu'on fait. Heureusement, ça progresse. Je ne vous dis pas qu'on restera toujours dans cet état d'ignorance. Un jour viendra où on connaîtra le caractère normal ou pas normal de toutes ces variations. Mais le problème, c'est qu'à l'instant où nous parlons, et au bénéfice du doute, on procède à beaucoup d'actes médicaux sur des variations dont on n'est pas absolument sûr de la pertinence. Alors, je voudrais maintenant aborder le deuxième chapitre qui est celui des innovations. Pour vous dire que c'est à la fois, là encore, bien et avec des réserves. Bien avec des réserves. Qu'est-ce que c'est le DPNI, ce qu'on appelle le diagnostic prénatal non invasif. L'idée, pour éviter à une femme d'avoir à subir une ponction amniotique ou une biopsie de trophoblaste, l'idée est d'aller chercher dans le sang de la femme enceinte un peu d'ADN du fœtus, parce qu'il y a de l'ADN fœtal qui circule dans le sang maternel. Donc on va filtrer le sang de cette femme enceinte et on va récupérer l'ADN fœtal. Alors évidemment, puisqu'on récupère de l'ADN du fœtus sur la prise de sang, on n'a plus besoin de faire le geste invasif, évidemment. Et c'est comme ça que beaucoup de jeunes femmes autour de vous, j'en suis sûr, font ce qu'on appelle le DPNI, pour éliminer les risques de trisomie 13, 21 ou 18. Ou pour un diagnostic de sexe, lorsqu'on est devant une maladie liée au chromosome X, qui frappe les garçons, et qui n'a pas été identifiée. Donc ça se répand d'autant plus volontiers que c'est devenu là encore un marché. Donc beaucoup de jeunes femmes font ce test, qui ait des indications échographiques ou qui n'en ait pas. Dieu merci, dans la grande majorité des cas, le DPNI est fait par des professionnels sur la base d'indications échographiques. Au moindre doute, on fait le DPNI. Ce test est extrêmement surveillé par l'Agence de la biomédecine, qui a d'ailleurs mis des interdits extrêmement stricts, à mon avis à juste titre, pour éviter la dissémination sauvage des tests, en particulier dans le secteur privé. Mais pourquoi sont-ils si inquiets? Vous allez le comprendre tout de suite. C'est que c'est tellement facile de faire une prise de sang, très tôt, à 7-8 semaines de grossesse, que les risques existent, que soit fait de cette technique un usage qui n'a plus rien de médical. C'est-à-dire qu'il suffit de faire une prise de sang à une femme enceinte de moins de 10 semaines, d'envoyer dans une officine, pas en France car c'est interdit, mais ailleurs, un prélèvement de sang pour savoir quel est le sexe de l'enfant à naître. Et de le savoir dans les délais de l'interruption médicale de grossesse. De l'interruption volontaire de grossesse. Donc ces pratiques répréhensibles sont courantes au Moyen-Orient. Il y a même des laboratoires qui font recette. Au Moyen-Orient, il y a des endroits où c'est leur fonds de commerce. Faire ce qu'ils appellent « family balancing », ce terme pudique pour dire qu'en fait on va supprimer des petites filles quand on veut des garçons. Donc l'Agence de la biomédecine, dans sa sagesse, est extrêmement attentive à limiter le nombre de laboratoires habilités à faire cela et à le faire dans des conditions de rigueur scientifique irréprochables. Mais naturellement, nous sommes un espace, qui est l'espace de l'Hexagone, l'espace sanitaire français, est-ce qu'il est? Nous légiférons sur l'Hexagone, mais il est difficile d'interdire à quelqu'un d'envoyer un prélèvement à l'étranger. En principe, c'est interdit par la loi, on n'a pas le droit de le faire. Quoi de plus simple, avec toute la publicité qui est faite là-dessus, quoi de plus simple que d'envoyer, si on n'a pas réponse à sa question dans notre pays, envoyer un prélèvement à l'étranger, en Belgique ou ailleurs, pour déterminer le choix des sexes. Donc, là encore, des avancées technologiques, mais avec un revers de la médaille, encore et toujours. Je voudrais venir maintenant sur le sujet du dépistage des porteurs sains, parce que il est vraiment un des points importants de la révision des lois de bioéthique dont parlait notre président tout à l'heure. Donc de quoi il s'agit là? Il s'agit de jeunes couples qui n'ont pas encore d'enfants et qui ont le souhait d'identifier chez eux les risques de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas un frère ou une sœur qui a la mucoviscidose ou la myopathie. Tout le monde va bien, il n'y a pas de malade, personne n'a été malade, le couple même est en bonne santé. Mais ils savent que contrairement aux promesses de guérison proférées depuis plus de 30 ans, ces maladies génétiques sont faciles à diagnostiquer, mais très difficiles à traiter. Et ils nous disent, écoutez docteur, si c'est tellement facile de diagnostiquer, et si vous êtes tellement mauvais pour soigner, au moins évitez-nous le premier malade. Donc la question, elle émane de couples qui ne se savent pas, qui ne connaissent rien sur leur statut, qui n'ont pas d'antécédents et qui veulent juste avoir un choix reproductif éclairé. ça ne vaut que pour les maladies d'hérédité biparentale et bien sûr pas pour les accidents génétiques qui peuvent se produire comme chaque fois qu'on fait un enfant. Mais vous voyez bien que ce test, ce qu'on appelle le carrier screening, tombe exactement sous le coup de ce que je vous disais en introduction, c'est que si on tombe sur un variant de signification inconnue, qu'est-ce qu'on va faire? Imaginez un jeune couple qui se fait tester pour 500 euros ou 1000 euros. On n'a pas le droit de le faire encore en France, mais je vous parlerai tout de suite de l'évolution des textes de loi. Pour 500 euros, on va se faire tester, qui se trouve porteur de la mucoviscidose. Sa compagne va se faire tester à son tour, on trouve un variant de signification inconnue. Ben, croyez-moi, un fœtus qui aurait reçu l'allèle muté du père et le variant de signification inconnue de la mère, je ne donne pas cher de ce fœtus. Il sera demandé une interruption de grossesse. Donc c'est ça, le problème de carrier screening, c'est d'en faire un usage raisonnable. Si on en fait un usage large, on aura une hécatombe d'interruption médicale de grossesse, simplement parce qu'on est encore dans le cadre d'un très grand nombre de variations de signification inconnues. Alors pourquoi on en est arrivé là, à cette demande sociétale en France? Parce que, je dois vous dire que 80% des jeunes, parmi vos enfants ou petits-enfants, quand on fait un sondage en France ou ailleurs, disent « bah oui, bien sûr, si on peut le savoir, que je le sache, et qu'on m'évite d'avoir un enfant malade, même le premier. » Donc, ce carrier screening est plébiscité par les jeunes couples, dans l'Europe entière. Alors, comment c'est arrivé tout ça? C'est intéressant, parce que le diable, il se faufile dans les interstices. Ça a été initié pour de très bonnes raisons, le carrier screening. De très bonnes raisons. C'était les populations à risque de thalassémie en Sardaigne et en Sicile, de drépanocytose, la maladie, l'anémie falciforme, en Afrique subsaharienne ou aux Antilles, ou dans le Maghreb, ou les juifs ashkénazes, où il y a une fréquence très élevée de la maladie de Tay-Sachs. Donc ça a été initié pour de bonnes raisons et pour des populations ou des sous-populations à risque. Et par conséquent, il serait logique de réserver le carrier screening à des populations à risque. Les personnes qui sont originaires d'Afrique subsaharienne, et la drépanocytose c'est devenu la maladie génétique la plus fréquente en France, de très loin, et bien avant la mucoviscidose, ou bien peut-être pour les juifs qui le souhaitent, tester la maladie de Tay-Sachs, même s'ils n'ont pas de malades dans la famille. Donc il y a quelques situations où on a de bonnes raisons de faire du carrier screening. Mais quand on parle aux législateurs et aux politiques, ils ont une sainte hantise de stigmatiser des populations. Et au motif que ces stratégies de carrier screening en population à risque pourraient stigmatiser, ils préfèrent encore promouvoir des screenings de masse absurdes plutôt que d'accepter la réalité qu'il y a un certain nombre d'entre nous qui sont plus à risque que d'autres pour certaines pathologies. Donc on avance à marche forcée un petit peu par manque de courage de la part du législateur. On est en train d'avancer vers du dépistage de masse, dont la seule chose que j'ai pu obtenir dans la révision des lois de bioéthique, j'espère que ça va tenir, aussi bien dans les forums citoyens qu'au Conseil d'État et dans le rapport du CCNE, c'est qu'au moins ce carrier screening, s'il est fait, soit réservé à un petit nombre d'affections d'une particulière gravité et aux seules variations de l'ADN de signification certaine. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'on avance peut-être, mais qu'on avance sur des affections très graves, incurables, et sur des variations de l'ADN dont on est certain. Alors quand j'ai présenté ces diapositives au père Sainteau, il m'a appris quelque chose de très intéressant, parce que je lui ai dit, mais mon père, c'est une démarche individuelle, elle est volontaire, non coercitive, elle vise à informer des couples. Quoi de plus normal? C'est pour éviter un premier malade. D'autant que les promesses de guérison n'ont pas été tenues. Et puis on va tester les deux membres du couple, donc ça fera peu de couples hétérozygotes finalement. Et donc on allait vers une révision des lois de bioéthique qui pourrait autoriser quelques pilotes en France pour le dépistage d'un petit nombre d'affections d'une particulière gravité, d'hérédité biparentale et incurable. Alors, je me suis posé la question, est-ce qu'on est déjà dans l'eugénisme? Et là, le père Sainteau m'a sorti un document extrêmement intéressant. Je remercie beaucoup de m'avoir porté à ma connaissance. Je l'ai mis intégralement, le texte qu'il m'a transmis. C'est un texte d'il y a 10 ans. Et c'est l'avis du Conseil d'État en 2009. Et vous allez voir comment notre société change d'avis. Je ne dis pas qu'elle évolue, je ne suis pas sûr que ce soit une évolution. Mais comment elle est capable de changer d'avis. En 2009, en avril 2009, ça fait juste un an, le Conseil d'État écrit, 10 ans, l'eugénisme peut être désigné comme l'ensemble des méthodes et pratiques visant à améliorer le patrimoine génétique de l'espèce humaine. On est d'accord. Il peut être le fruit d'une politique délibérément menée par un État et contraire à la dignité humaine. Tout le monde voit de qui il s'agit. Paragraphe suivant. Il peut aussi être le résultat collectif d'une somme de décisions individuelles convergentes prises par les futurs parents dans une société où primerait la recherche de l'enfant, entre guillemets, parfait, ou du moins indemne de nombreuses affections graves. Donc on voit simplement, en comparant le rapport du Conseil d'État 2009 à ce qu'est la position du CCNE aujourd'hui, combien la société, je ne dis pas qu'elle évolue, mais elle change. L'opinion change. Les jeunes couples, ils sont massivement demandeurs pour toutes sortes de raisons qu'on pourrait discuter. Mais ils sont beaucoup moins hostiles à l'idée de dépistage de masse qu'on ne l'était il y a 10 ans, et a fortiori il y a 15 ou 20 ans. Donc c'est incroyable de voir comment l'opinion et les barrières éthiques, les réticences éthiques, finalement, évoluent, changent et finalement s'érodent, il faut bien le dire, avec les années. Alors, je voudrais dire un petit mot des innovations les plus spectaculaires, à mon avis, c'est la pharmacogénomique. En gros, vous avez une tumeur, on fait un test génétique, et le test génétique, qu'on appelle un test compagnon, dicte le médicament qu'il faut prescrire. Ça, c'est quand même fantastique. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, peut-être des gens parmi vous ce soir, ont eu une chimiothérapie guidée par un test génétique, avec un test compagnon qui accompagne un nouveau médicament. Donc ça, c'est assez remarquable. Il y a des résultats spectaculaires, des tests génétiques dictant le bon médicament, le bon traitement. Il y a environ 100 000 patients par an qui ont des tests comme cela dans notre pays, avec des prescriptions de médicaments ad hoc. Et il y a des résultats spectaculaires, un des plus spectaculaires étant celui du cancer du sein, du cancer du poumon, où là vraiment, quand on a une mutation du récepteur EGFR, on a un bénéfice considérable à recevoir un traitement qui est un anticorps monoclonal. Donc on voit bien que ces tests génétiques sont aussi des très bonnes choses. Alors, j'ai pointé pour finir plusieurs inquiétudes, j'espère profondément qu'elles ne se réaliseront pas. Mais parfois, vous savez, pas mal de faire ce que Hans Jonas appelait l'heuristique de la peur. Le philosophe Hans Jonas, il parlait de l'heuristique de la peur. La peur comme instrument de connaissance, d'accès à la connaissance. C'est-à-dire, je vais faire un scénario catastrophe pour que justement la catastrophe ne se produise pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va faire un scénario peut-être un peu forcé, et encore, de manière à mieux se protéger contre ce scénario catastrophe. Il a appelé ça dans un livre célèbre qui s'appelle « L'heuristique de la peur comme instrument d'accès à la connaissance ». Là, je parle en présence d'un éminent cytogénéticien français, donc j'espère qu'il ne va pas me tirer les oreilles tout à l'heure, mais je dois ces informations à des collègues estimables comme sont Damien Sanlaville, Valérie Malan. Il y a beaucoup de tests cytogénétiques qui sont faits actuellement en prénatal sur des indications échographiques. Et évidemment, à mesure que les karyotypes moléculaires progressent, on voit de plus en plus de choses, naturellement. Plus on progresse en technique, plus on voit des choses petites et même minuscules, qu'on ne voyait pas jadis avec les examens classiques des chromosomes. Donc, pour les professionnels, encore je parle sous le contrôle de la collégiale de cytogénétique, le risque de surinterpréter des variants croît linéairement avec le nombre de variants testés. Évidemment, plus on teste de choses, plus on a de risques de trouver des choses qui ne sont pas spécialement souhaité, ou tomber sur des trucs très compliqués pour lesquels il faut un expert chevronné pour s'en sortir. Alors, Valérie Malan a tiré la sonnette d'alarme en disant, attention, il y a beaucoup d'interruptions médicales de grossesse qui sont faites sur des variantes de signification inconnues. Donc, les jeunes professionnels nous appellent par sagesse, et hommage à leur sagesse, à non pas tester plus de variants en prénatal, mais plutôt d'en tester moins. Donc la sagesse voudrait de faire moins de tests dont on est sûr que plus de tests dont on n'est pas sûr. Même chose que pour le carrier screening tout à l'heure. Donc on va avoir collectivement à gérer cet essor des technologies qui risque fort de dicter les pratiques, finalement de tyranniser les pratiques. Donc il faut être, vous savez, comme les grands chirurgiens. Un grand chirurgien, c'est le chirurgien qui sait ne pas opérer. Les plus grands, ils disent, là, je ne vais pas opérer. Un grand généticien, un grand cytogénien, il veut dire, là, je ne vais pas le faire. Donc je trouve que c'est fort d'arriver à ce niveau d'expertise, pour dire, je m'arrête, je ne vais pas plus loin parce que je vais commencer à dire des bêtises. Première inquiétude. La médecine prédictive, elle est combien de temps ?
5 minutes.
Oh là là, 5 minutes. Écoutez, la médecine prédictive, 5 minutes, je vais y arriver. On nous parle beaucoup de la médecine prédictive et la capacité de la génétique à prédire les maladies communes. Je voudrais vous dire que c'est une escroquerie. Certainement lucrative, mais c'est une escroquerie. Parce que la valeur prédictive positive de ces tests est extrêmement faible. D'abord, l'amplitude est faible, et ensuite, les résultats n'ont de valeur qu'en population générale, pas au niveau individuel. Donc c'est comme si je mettais à la sortie du bureau de vote de l'un d'entre vous, et que sur la moyenne des suffrages exprimés dans votre bureau de vote, j'en inférais ce qu'a été le suffrage de chacun d'entre vous. C'est impossible. C'est une escroquerie. Mais évidemment, l'opinion ne veut pas entendre ça, les journalistes et les médias matraquent avec cette médecine prédictive, qui pour le moment, ça commence à changer. Mais pour le moment, on lui fait dire plus qu'elle ne peut dire. Alors, j'ai encore deux... Je vais sauter celui-là. C'est dommage. Non, je la saute pas. Tant pis. Il y a une tentation pour en faire de plus en plus. En particulier, c'est quand c'est tout à tout le monde. Et comme tout le monde n'est pas adepte de cette stratégie raisonnable des panels de gènes connus et publiés... La tentation est grande de séquencer tout à tous les malades. Et donc, sous la pression du marché, et même de généticiens, y compris de très bons, les gens nous disent, mais pourquoi confisquer aux citoyens le droit de savoir c'est du paternalisme de votre part, c'est du corporatisme. Vous n'avez pas à priver les gens de cet accès à une connaissance. Mais de quelle connaissance il s'agit ? Si c'était une connaissance formelle, il n'y aurait pas de moindre réserve. Mais si c'est pour avoir toutes ces fake news, excusez-moi, mais j'ai quelques réserves. Alors, je prends un exemple parce que c'est un grand généticien de Houston qui m'a raconté qu'il s'était fait son propre séquençage. Quand on est un grand généticien, c'est très chic de se séquencer son génome. Il s'est séquencé son génome. Il m'a dit, j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que tu as fait ? Je me suis fait mon génome, j'ai séquencé et je me suis trouvé une maladie mortel, je devrais être mort. Il s'était trouvé à lui-même une maladie génétique. Il m'a dit, tu vois, j'aurais été en prénatal, j'aurais pas donné cher à ma mère de mon existence. Ça l'a refroidi. Mais il faut peut-être avoir fait cette expérience pour être refroidi. Alors, je voudrais vous dire que les fake news, il y en a aussi dans ce domaine. Parce que ça rapporte, vous l'avez compris, beaucoup de sous. Il y a des plumes qui sont payées pour ça. Les fausses promesses pullulent à Radio Classique, etc., toute la journée. Donc ce sont des carabistouilles. Mais personne ne veut le croire, parce que c'est pas possible. J'ai l'air d'être un vieux ringard quand je vous dis ça. On a bien plus envie d'écouter les promesses qui n'engagent que ceux qui les écoutent. Mais il y a véritablement un abus de confiance, avec une crédulité de l'opinion, qui croit mordicus à la valeur de ces tests, un peu comme on croyait aux avions renifleurs lorsque... La question s'était invitée. Donc comme l'impunité est la règle qu'on peut investir à perte, il y a beaucoup de gens qui s'engagent vers ces promesses. qu'on parle de transhumanisme, de mort de la mort, de ciseaux moléculaires, qui sont de très bons outils au laboratoire, mais pas en clinique. Donc tout ça, ça se passe dans une totale impunité. Totale. Et c'est ça qui me m'inquiète, c'est que la séquence fake news, information mal digérée, fraude, elle est, où tout le monde trouve son compte d'ailleurs, elle est même pas pour demain, c'est déjà aujourd'hui. Alors, j'avais mis cette diapo pour vous. C'est un très beau tableau de Botticelli qui est aux offices. C'est le roi Midas qui se fait conseiller. Il y a deux femmes qui conseillent le roi Midas. C'est deux belles femmes. L'une, c'est la suspicion et l'autre, c'est l'ignorance. Et il sait pas, regardez son visage, il est défait, il sait pas quel sein se vouer entre ces deux femmes qui lui racontent des carabistouilles. Et qu'est-ce qui se passe devant lui? On lui traîne la victime d'un massacre qui est lui-même condamné, parce que la victime étant naturellement le coupable. Et cette victime est tirée par les cheveux par quatre femmes qui sont, pour Botticelli, la fraude, la déception, la calomnie et le dépit. Et dans un petit coin, il y a la vérité qui essaye de se faire entendre et qui n'y arrive pas. Botticelli a tout à fait sa voix au chapitre aujourd'hui. Je voudrais finir avec peut-être le thriller catastrophe, celui qu'on veut pour rien au monde. Heuristique de la peur peut-être, mais je vous le dis parce que je l'ai sur le cœur. Ces différences génomiques qu'on est en train de générer risquent de booster, ou risquent-elles de booster un néo-eugénisme pseudo-scientifique? Je pose cette question-là. Ces données de masse, si elles sont croisées avec des caractéristiques sociales, sociétales, intellectuelles, toutes sortes de paramètres que vous pouvez imaginer, peuvent contribuer à hiérarchiser les humains. Et vous savez bien qu'il n'y a pas d'ethnie pure, on en a parlé tout à l'heure. Il n'y a pas de frontière entre les groupes humains. Mais dans le contexte de tensions relatives aux flux migratoires, est-ce que notre science ne pourrait pas être récupérée, pervertie, exploitée à des fins qui n'ont plus rien de scientifique, mais pour servir des causes identitaires? Et ça, c'est une inquiétude de certains d'entre nous. Et donc, je crois que cette question ne concerne pas seulement les scientifiques, elle concerne vous tous ce soir. C'est d'être vigilant pour que ces tests génétiques ne finissent pas par constituer l'aube d'une nouvelle horreur collective, où on utiliserait la science pour des motifs qui n'ont plus rien de scientifique et qui pourraient s'emparer des forces politiques des extrêmes. Alors je finis, Monsieur le Président, je finis parce que, au fond, qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui? J'ai pris cette statue du XVIe siècle, c'est Adam et Ève. C'est une statue qui vient d'Auvergne. Et j'ai mis le texte hébreu et la traduction française. C'est intéressant parce que en français, tiré traduction du latin et du grec, on vous parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est dit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. C'est ça qui est traduit. De l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Mais pour les hébraïsants parmi vous, vous savez que c'est une grossière erreur de traduction, car le texte hébreu dit de l'arbre de la connaissance bonne et mauvaise, tu ne mangeras pas. Est-ce que vous voyez la différence? C'est du lourd, ça. Il n'y a pas d'un côté le bien et de l'autre côté le mal. Il y a la connaissance avec un bon usage et un mauvais usage de celle-ci. Ce qu'Henri Atlan a repris avec un petit livre magnifique qui s'appelle « La science est-elle bonne ou mauvaise ?» Il conclut « La science, elle n'est pas bonne ou mauvaise, elle est bonne et mauvaise à la fois. Il s'agit pour nous d'en faire un usage raisonnable pour protéger notre civilisation et nos enfants. Et je vous remercie beaucoup de votre attention ce soir.
Merci, monsieur le professeur. Je rappelle pour les auditeurs de RCF que nous écoutions sur l'essor des tests génétiques, le professeur Arnold Munich, chef du département de génétique médicale de l'hôpital Necker, enfants malades. Et la parole est maintenant au père Bruno Saintot.
Oh bah, tu prends le temps que tu veux, parce que je pense que cette intervention occupera, de toute façon, pour la radio.
C'est fini. Oui, c'est pour la radio. Ouais.
Donc,
C'est
pour le... laisser un peu de place à la discussion.
Oui, qu'on ait un temps de débat. Donc je vais...
Une vingtaine de minutes.
Oui, je vais essayer de faire court. Parce que ça ne passera pas. Je vous mettrai le PowerPoint là, en ligne. Voilà. Alors, voilà, j'avais prévu de reformuler la problématique générale, puisque moi j'ai pour tâche de réfléchir en éthique. Ben, vous voyez, le professeur Munich a tous les talents, n'est-ce pas? C'est un grand généticien, il réfléchit en éthique, il fait de l'exégèse rabbinique. Je ne voulais pas faire de midrash avec lui, mais j'aurais pu, et puis discuter des traductions, mais on ne peut pas tout faire. Voilà. Alors, je voulais aussi partir de son questionnement et me demander qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est pour ça que j'analyserai les propositions d'extension de l'usage des tests génétiques à partir du rapport du député Jean-Louis Touraine. Donc c'est vrai, le professeur Munich a fait de l'heuristique de la peur. Moi, mon but, c'est de vous montrer qu'est-ce qui est en train de nous travailler, de travailler l'opinion publique. Qu'est-ce qui est déjà là, mais vous l'avez dit d'une certaine manière, qu'est-ce qui est déjà là aux États-Unis, dans d'autres cultures, d'autres manières de raisonner, et qu'est-ce qui est déjà là en France et qui se traduit dans un rapport qui a été déposé à l'Assemblée nationale, une mission d'information, et qui devrait, enfin, on ne sait pas comment, inspirer de nouvelles lois. Et puis plus généralement, répondre à la question, quels repères éthiques pour les tests génétiques, pour quelle société? Donc moi aussi je suis très scolaire, j'ai prévu trois parties. Donc un système d'information, d'accompagnement, de responsabilité, l'examen critique de quelques propositions avant le dépôt de la loi. Vous verrez que c'est en pile dans ce qu'a critiqué le professeur Munich, on est en pile dedans, voilà, et donc pour montrer qu'est-ce qui travaille l'opinion, comment ça vient, et puis si j'ai le temps, quelle éthique pour quelle société, en tout cas quelques grands principes qui pourraient réguler nos pratiques, parce que nos pratiques, elles sont régulées aussi par une éthique sociale, une éthique économique, une éthique politique. Alors, j'avais prévu de vous décrire tout ça avec des petits schémas vraiment intéressants, mais je vais passer rapidement.
Non.
Bah si, parce que après je voudrais laisser la place pour les questions. Au moins que vous compreniez quelques petites choses. Pourquoi ces questions-là, elles sont prises plus généralement, voilà, dans un état de la science, et vous avez vu les ambiguïtés autour de l'état de la science, voilà, il y a des ambiguïtés autour de l'état de la science, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, quelle est la signification des variants, voilà, donc il y a des savoirs scientifiques. Il y a une chose extrêmement importante aussi, c'est que nous avons des représentations collectives de ce qu'est la maladie, la santé, qu'est-ce que c'est finalement, on a des représentations extrêmement différentes, et puis des représentations de la vie acceptable. Qu'est-ce qu'une vie acceptable pour aujourd'hui? Quel handicap est acceptable? Quelle maladie est acceptable? Qu'est-ce qu'on ne voudrait surtout pas pour nous, pour d'autres, pour notre descendance? Ça concerne bien sûr la personne qui va vouloir faire des tests génétiques, bon, la personne concernée. Mais il y a donc une responsabilité, on pourrait dire, pour soi-même. Est-ce que je vais les faire ou pas? Qu'est-ce que je vais apprendre? En quoi ça me conditionne, etc. Alors, ça conditionne aussi la parentèle existante. En droit français, il y a des obligations aussi de type juridique d'informer la parentèle. Pour vous dire, il y a un système, celui d'intrication des problèmes et des responsabilités. Responsabilité pour soi, responsabilité pour la parentèle. Une autre responsabilité aussi, et j'insisterai là-dessus, une responsabilité pour la descendance potentielle. Avec les trois niveaux qui ont été soulignés, le diagnostic préconceptionnel, le diagnostic préimplantatoire et le diagnostic prénatal. L'autre question, c'est les données génétiques dont je vais pouvoir disposer, à qui peuvent-elles profiter? Évidemment, si j'envoie ma salive aux États-Unis à 23andMe, les données génétiques, elles sont ailleurs. Elles vont profiter à d'autres qui vont pouvoir les vendre. Donc la question, à qui ça peut profiter? Bah, par exemple, à des groupes de malades qui sont, comme moi, qui ont la même maladie. Bon, est-ce que je vais consentir à donner mes données génétiques, numériques, à les confier, en dire, vous pouvez les exploiter, voilà, pour ce groupe de malades. Plus généralement, pour tous les citoyens, voilà, pour la santé publique en général. Bien sûr, tout ça n'est pas fait n'importe comment. Je voudrais rendre hommage aussi au travail des généticiens, des psychologues. Je connais un peu la pitié salpêtrière qui font un excellent travail. Et je fais quelque chose au DU sur les médecine génétique, c'est vraiment intéressant comme souci des personnes, comme forme d'accompagnement, et donc je voudrais vous rendre hommage aussi pour la qualité de l'accompagnement et ce qu'ils font aussi à la pitié avec Alexandra Dur et Alex Brice. Oui, voilà. Bon, alors, donc, des systèmes d'information, quel rôle va être joué par les généticiens avec les quatre questions? Qu'est-ce que c'est que l'information, l'accompagnement? Est-ce qu'on a une responsabilité morale, une responsabilité juridique? Alors, vous voyez, donc, il y a quatre, à mon avis, quatre responsabilités qui vont être en interaction et qui vont beaucoup jouer pour nous, sur ce que l'on doit faire, sur ce que l'on peut faire, sur notre propre contrainte. D'abord, par rapport à soi-même, est-ce que finalement, j'ai le devoir, mais qui me serait imposé par qui? Par moi ou par d'autres? Responsabilité de connaissance sur mon propre génome, sur les maladies que je pourrais avoir. Voilà. Donc, responsabilité de connaissance, de prévision, de décision, de consentement pour soi-même. Une responsabilité pour la parentèle, une responsabilité pour la descendance à venir, et puis une responsabilité sociale. À qui profitent mes données? Elles sont à disposition de qui? Qui peut s'en emparer? Qui en profite? Pour quelle somme d'argent? Je voudrais souligner par rapport à ça qu'il y a une ambiguïté majeure et qu'il y a une question majeure, c'est la fameuse question de l'autonomie. Pourquoi il y a des tests? Parce qu'il y a des gens qui les demandent. Pourquoi il y a des tests? Parce qu'il y a des gens peut-être qui les demandent pas comme tels, mais qui y consentent. Voilà. Donc il y a une grande différence entre vouloir quelque chose et consentir à quelque chose. Au niveau médical, nous consentons, finalement je consens à être opéré, je peux dire que je le veuille vraiment, je consens. Voilà. Donc ça s'effectue sous la contrainte. Donc, le droit exige bien sûr le consentement de la personne pour tout acte médical, mais qu'est-ce que le consentement et par quoi le consentement est-il conditionné? Qu'est-ce qui influe finalement sur mon consentement? Voilà. Donc il y a les théories sociales ici qui sont politiques. Est-ce que nous pouvons réguler toutes les relations humaines sous l'objectif du consentement? À partir du moment où quelqu'un consent, on peut tout faire. Pourquoi vouloir savoir ou consentir à un test? Ben, il y a plusieurs points que vous avez très bien abordés. Pour se préparer au mieux, psychologiquement, médicalement, affronter la maladie présente, peut-être pour avoir plus de chances de traitement précoce, voire de guérison, pour pouvoir aider d'autres personnes de sa parentèle. Il peut-être aussi, parce que ben, mon consentement, il est informé par l'état de pression sur moi, sur mes angoisses, mes peurs, l'influence des proches, la société qui dit bah ça il faut absolument le savoir et puis peut-être il faut absolument que ces enfants-là ne viennent pas au monde. Voilà. Pourquoi ne pas vouloir savoir? Bah, parce qu'on n'est pas prêt psychologiquement, peut-être pour ne pas risquer d'être enfermé dans la maladie. Très intéressant de suivre des psychologues qui accompagnent à la pitié notamment. Qu'est-ce que c'est que vouloir être informé? Et la plainte des gens, ils disent mais moi je n'ai pas envie d'être identifié à ma maladie, donc voilà. Parce qu'il n'existe pas de traitement, et peut-être pour ne pas affronter l'épreuve de le dire à la parentèle. Voilà. Alors, du coup, plein de questions, je vais passer assez rapidement. Une éthique générale de la prédiction de la mise à disposition des tests, qui peut le faire, pour quel motif? Quelle utilité s'il n'a pas de traitement? Pratiqué par qui? Voilà. Interprété par qui? Vous avez bien donné les règles aujourd'hui. Quelle représentation sociale de la maladie, notamment des déficiences intellectuelles, dont la trisomie 21, j'y reviendrai parce que c'est, pour moi c'est symptomatique. Qui peut disposer des données et comment est régulé le marché. Ça, c'est une éthique générale. Il y a une éthique de l'annonce, bon, qui est bien pratiquée, que vous pratiquez, voilà, quel droit à ne pas savoir, et puis quel est l'accompagnement, c'est central, et quel type d'accompagnement des proches, ça c'est central, il n'y a pas uniquement un savoir pour soi, être accompagné soi-même, mais accompagner la parentèle. Donc une éthique de l'information de la parentèle, quelle obligation morale, mais quelle obligation juridique aussi d'informer pour la personne concernée, par quelle procédure, et comment sont aussi accompagnés les proches. Et puis un domaine majeur sur lequel je vais m'attarder un petit peu, parce qu'il est majeur, à mon avis, pour décrire les évolutions actuelles, c'est l'éthique de la transmission de la vie. Comment j'éprouve ma propre responsabilité morale de transmettre? À quoi me contraint le droit? Voilà. À quoi me contraint ou pas la société? Et donc, quelle est la place aussi du handicap? Quelle est l'acceptabilité du handicap dans la société? Quels sont les contrôles sociaux et politiques? Alors, pour que vous mesuriez ce qui est en train de se passer, ce que des gens proposent, quelques petits travaux pratiques sur à partir du rapport déposé par Jean-Louis Touraine, donc le 15 janvier 2019. Voilà, donc c'est tout à fait récent. Alors, tout ça, vous l'avez bien dit, prend sens Tout ça prend sens dans de grandes évolutions de la médecine que vous avez bien décrites, avec la médecine des 4 P, personnalisée ou de précision plus exactement, préventive, prédictive, on y est, et participative, avec au centre, on pourrait dire, la constitution pour faire des analyses de bases nationales de métadonnées clinico-biologiques auxquelles on va se référer et qui vont être enrichies par l'apport de tous les citoyens et l'apport de tous aussi les diagnostics génétiques qui seront faits. Alors, quelles sont ces propositions pour que vous mesuriez ce qui est en train d'avancer, vous rendiez compte un peu qu'est-ce qui travaille l'opinion publique et qu'est-ce qui nous travaille nous aussi. Donc, j'ai cité 4 propositions dans le rapport Jean-Louis Touraine. On y est, vous l'avez décrit, proposer le dépistage préconceptionnel, non pas à partir d'un cas avéré, mais sans cas avéré. Étendre les indications du diagnostic préimplantatoire à la recherche des aneuploïdies, accompagner l'extension des indications de diagnostic prénatal, et puis bien sûr, pour que tout ça soit acceptable, quand même, il faut un peu d'humanité, promouvoir la profession de conseiller en génétique. Voilà. Donc toutes ces évolutions, on pourrait dire, sont conditionnées par le fait que la société devrait encourager la profession de conseiller génétique. Proposition de dépistage conceptionnel, donc vous l'avez dit, permettra à des membres d'un couple de détecter des gènes dont la transmission des enfants futurs provoquerait des maladies graves. Donc c'est permis aujourd'hui, avec la condition d'un cas avéré, et la proposition est donc d'ouverture du diagnostic préconceptionnel à d'autres, sans condition de cas avéré. Le rapport Touraine justifie ça comment ? Il s'appuie sur le rapport du CCNE pour éviter une pathologie grave. Je souligne le mot grave parce que un des fils conducteurs de mon interrogation, ça va être, en fait, qu'est-ce qu'une pathologie grave ? Et puis, comme dans la loi, il est mentionné à plusieurs reprises, une maladie d'une particulière gravité, qu'est-ce que c'est qu'une maladie d'une particulière gravité? Qui en décide? C'est quand même une question majeure. Donc, proposition de dépistage préconceptionnel, question éthique. Tous vont pouvoir le faire? Oui, non? Potentiellement oui. Et bien, j'ai mis, qu'est-ce qui justifiera de ne pas inclure les donneurs de gamètes pour l'AMP avec tiers donneur? On pourrait dire ça aussi. Pourquoi uniquement les couples? Pourquoi pas les donneurs aussi, avoir leur screening génétique? L'incertitude, vous l'avez bien donnée. Bon, une probabilité de transmission, qu'en faire? Et puis, le diagnostic préconceptionnel n'écarte pas les mutations de novo. Il y a plein de mutations qui pourront se passer. La question de l'ampleur du test, qui est bien posée dans le rapport, mais qui ne statue pas. Finalement, le test, on va le faire sur un panel de gènes connus, ou bien sur l'exome, ou bien sur le génome tout entier. L'ampleur, avec la question des coûts et de l'ampleur des données. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va ? On va détecter des tas de choses, voilà, des maladies mortelles, puis on est toujours vivant. Voilà. Quels sont les objectifs de la détection aussi ? Eh bien, le rapport propose de s'arrêter aux maladies monogéniques graves. Mais en fait, pourquoi s'arrêter aux maladies monogéniques graves? Et puis, qui sera le garant de la non-extension? Vous avez bien dit tout à l'heure qu'il y a une sagesse de la loi française actuelle, vraiment, qu'elle est bien cadrée. Je pense qu'il y a une sagesse de la loi française. Toutes les indications, les évolutions de ce rapport sont pour dire qu'il faut ouvrir. Donc, toutes les contraintes, toutes les limitations qui étaient prévues jusqu'à maintenant, dont vous avez bien décrit la sagesse, la proposition, c'est de les ouvrir. On étend, on ouvre, on sort du cadre dit de la bioéthique française. Voilà. Objectif de détection, si les gènes dits actionnables, comme BRCA1, BRCA2, est-ce qu'il y aura un syndrome d'Angelina Jolie pour tous? Voilà. Un problème, ça pose un gros problème, ça pose un problème de qualification. Parce que personne n'a défini officiellement ce qu'est une maladie d'une particulière gravité. Voilà. Pourquoi? Personne, non. Sauf une seule, par un arrêté de 2009, la trisomie 21. C'est quand même assez stupéfiant. Une seule, dans le droit français, en 2009, j'expliquerai pourquoi aussi, en 2018, on l'a changé. Eh bien, le CCNE suggérait, et le rapport Touraine le reprend, que pour mettre une contrainte, il faudrait que, si on n'arrive pas à les définir, il faudrait faire des listes. Mais qui va faire les listes? Proposition que l'Agence de la biomédecine fasse une liste de maladies monogéniques graves. Oui, mais pourquoi se limiter encore une fois à ça? Quelle est la légitimité de l'Agence de la biomédecine? Par quelle autorité? Voilà. Et Quelle forme d'eugénisme étatique et libéral derrière ? C'est-à-dire, qui va décider des maladies ? Voilà. Pourquoi ? Au nom de quoi ? Bon. DPNI, vous l'avez bien dit. L'objectif est inchangé avec les nouveaux tests donc sur l'ADN libre circulant, donc diagnostic prénatal non invasif, avec le screening génétique sur le sang fœtal qui est isolé dans le sang maternel. Le critère reste celui d'une affection d'une partie de gravité. Voilà. Bon, l'avantage, c'est que la technique est non invasive et elle est de plus en plus précise, mais pour l'instant, c'est un dépistage, non pas un diagnostic. Hein, donc c'est très clair. On a des probabilités, on n'a pas encore, on l'utilise pas pour un diagnostic, mais pour un dépistage, des probabilités. Bon, je passe là-dessus. Quelle est l'évolution qui est induite? Eh bien, si on le sait de plus en plus tôt, on peut le savoir avant le délai légal de l'IVG. Si on le sait avant le délai légal de l'IVG, on court-circuite tout le travail qui est fait par les centres pluridisciplinaires du diagnostic prénatal qui ont pour mission d'arbitrer, acceptable ou pas. Donc, on peut dire, on court-circuite tout ce... C'est-à-dire, le fait d'en parler, le fait de l'exprimer et le fait parfois de dire non. Oui, il y a parler, le diagnostic aussi prénatal. Le rapport Touraine vient bien le problème éthique, mais il juge que l'intervention de grossesse, qu'elle soit désignée IVG ou MG, de toute façon, l'erreur a été pratiquée, donc ça n'a pas d'importance de distinguer les deux. Voilà. Donc le problème, c'est l'extension de la sélection, je crois, comme vous l'avez bien dit. Le DPI aussi, il est proposé de l'élargir à la détection d'aneuploïdie, voilà, avec le but de la modification, c'est d'écarter encore un plus grand nombre d'embryons, enfin détecter plus d'affections. La justification de l'extension, on dit que ces embryons-là ont des difficultés d'implantation, puis de toute façon, ça provoque des fausses couches. Donc, pour réduire les fausses couches, il faut permettre cette forme de diagnostic préimplantatoire. Bon. Mais le rapport Touraine voit bien que les anomalies ne sont pas toutes létales, n'est-ce pas ? Elles ne sont pas toutes les mêmes. Et, par exemple, il y a la trisomie 21 qui dérange tout le monde, finalement. Parce que les anomalies ne sont pas toutes létales, notamment la trisomie 21. Bon. Et donc là, je vais y revenir. Bilan éthique de ces évolutions proposées. Le statut éthique de l'embryon, vous savez que pour les catholiques, on s'excuse d'être catholique, mais c'est comme ça. La référence au respect de l'embryon dès la conception est une référence centrale. Bon, et la conséquence, c'est que le statut éthique de l'embryon va être fragilisé. Voilà. Il est fragilisé par le diagnostic, l'extension du diagnostic préimplantatoire, prénatal. Il est fragilisé aussi par toutes les propositions de recherche sur l'embryon. Je n'ai pas le temps de détailler. C'est en fait une éthique du curseur. C'est vraiment le rapport Touraine, c'est une éthique du curseur, c'est-à-dire il n'y a pas plus d'interdits fondamentaux, mais il y a un curseur et on le déplace en fonction de ce qui paraît acceptable ou pas. Mais vous voyez, il n'y a plus de grands interdits. Ça, c'est très frappant. Tout doit changer, enfin tout peut changer. Bien sûr, on régule, on continue à réguler, mais c'est une éthique du curseur. Il n'y a pas de grands interdits structurants. Bien sûr, il y a la conscience d'un accompagnement nécessaire. Alors, j'ai 3 minutes. Du coup, ça me pose plusieurs questions. Quelle éthique pour quelle société ? Donc, je vais donner simplement des têtes de chapitre. J'espère qu'on pourra discuter là-dessus. Alors, une éthique de l'information scientifique, ça vous êtes un pionnier là-dessus. C'est pas le seul. J'ai noté que l'avis numéro 6, donc 1995, dénonçait déjà le mythe du gène. Oui. Déjà en 1995, le CCNE dénonçait le mythe du gène. Si vous voulez, une compréhension déterministe, on a tel gène, donc on va déclencher telle maladie. Déjà en 1995. Bon, ça n'a pas changé, et vous le faites bien à votre manière, avec votre beau livre, « Programmer mes libres ». Voilà. Donc on est sorti d'un schème déterministe. Ça, c'est une information d'ordre scientifique à faire connaître. Vous le faites très bien, merci. Deuxième grande question, c'est l'éthique de la prédiction et de l'annonce. Comment assumer personnellement et collectivement des probabilités de déclenchement de la maladie? Qu'est-ce qu'on fait avec des probabilités pour soi et des probabilités pour d'autres? Comment on s'en empare? Comment on l'intègre? Le problème, c'est pas seulement de le savoir. Moi, j'ai pas détaillé tout au début de mon PowerPoint. Le problème n'est pas seulement de le savoir, mais comment on l'intègre en soi? Comment on le comprend? Comment on l'intègre à son existence? Le fait de se penser, se vivre comme potentiellement atteint à partir de, je sais pas quoi, 60 ans de maladie d'Alzheimer. Prenons un exemple. Voilà. Avec, dans cette éthique de l'annonce, bien mesurer tout l'impact des paroles de prédiction sur les personnes. Vous le dénoncez régulièrement, merci. Le pouvoir des paroles. Il y a un pouvoir de configuration par les paroles. Nos vies sont configurées par des paroles qu'on nous a dites ou des prédictions. La Bible préfère des bénédictions, des malédictions. Il faut beaucoup se méfier des prédictions. Il faut faire très attention. Voilà. Et puis ne pas inquiéter avec des probabilités de déclenchement de maladies qui sont incurables. Voilà. Tout un chapitre, évidemment, d'éthique sociale. À mon avis, toutes ces questions-là sont des questions d'éthique sociale, à savoir quelle est la place des plus vulnérables parmi nous. Il y a un grand paradoxe, c'est qu'il y a une grande insistance sur la non-discrimination, sur la non-stigmatisation des gens, et puis nos indignations de non-discrimination, de non-stigmatisation, je les trouve très sélectives, quoi. Hein, suivant nos options, on s'indigne d'une discrimination, là, une telle, et pas une autre, quoi. Bon. Et notamment, bon, le handicap mental et la trisomie 21, c'est quand même assez frappant quand on analyse comment c'est venu, voilà. Et le handicap psychique, et c'est pour que la psychiatrie ne va pas bien non plus, je trouve qu'il faut, tout cela mérite d'être repensé ensemble. Le CCNE voit bien l'impact des processus de normalisation, donc il est très conscient que nous ne sommes pas des êtres libres sans conditionnement, mais que nous sommes des êtres libres, conditionnés, et notamment conditionnés par des idéaux sociaux et des, ce que le CCNE appelle des processus de normalisation. Il y a des normes sociales qui apparaissent comme ça pour dire « Ah, non, bah, tel handicap, c'est plus acceptable. Hein, » Ce que le CCNE, c'est pas moi qui invente, c'est le CCNE. « Comment garantir une liberté de choix lorsque les progrès techniques et des processus de normalisation rendent de plus en plus subversif de ne pas tout mettre en œuvre pour éviter la naissance d'un enfant handicapé ?» Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et comment on est éveillé à ça, à ces processus sociaux et politiques de normalisation qui fait que tel handicap n'est plus acceptable? Autre enjeu, comment on définit la normalité? Qu'est-ce qu'un individu normal, une personne normale? Il y a un très beau passage dans la vie du CCNE en 2013, voilà, qui prône à la suite des travaux de Georges Canguilhem, pour ceux qui ont pu étudier parmi vous, qu'en fait la normalité humaine, ce n'est pas des questions de statistiques, c'est une question de pouvoir vivre avec, une question de pouvoir, avec ses handicaps, ses diminutions, comment est-il possible de vivre dans le monde commun? Ce n'est pas uniquement des affaires de statistiques, c'est est-ce qu'il est possible d'aménager le monde commun pour que je puisse vivre avec mon handicap? Voilà. Donc, la question de la normalité, aujourd'hui, comment est-elle posée? La question du point de vue des plus vulnérables dans un système de solidarité sociale. Il faut beaucoup s'intéresser aussi à la faveur des états généraux de la bioéthique et du processus de la révision des lois de bioéthique. Quelle éthique sociale va être promue? Quelle forme de solidarité? On va s'occuper de qui? On va être solidaire de qui? Voilà. Le Conseil d'État le dit clairement que la notion de solidarité impose dans une logique plus systémique de mesurer l'impact de toutes les décisions, toutes, sur les catégories les plus vulnérables de la société, handicapées, personnes âgées, dépendantes, populations étrangères ou en situation de précarité. La grande question centrale, c'est quelle est la place du plus petit? C'est pas moi qui invente, c'est le CCNE. Vous voyez? Bon. Si on construit une société par le plus petit ou pas par le plus petit? Par les plus faibles ou pas par les plus faibles? Donc, de mesurer l'impact. J'ai 2 minutes.
C'est-à-dire que ce sera autant de temps en moins pour...
Bon, voilà, bon alors non, je finis. Non, la place des vulnérabilités, oui, je suis très sceptique sur le fait de définir une maladie d'une particulière gravité, pour une bonne et simple raison, c'est que le concept de maladie, il recouvre 3 choses que les Anglais distinguent bien. Une maladie objet, celle qui est définie avec des critères médicaux, une maladie sujet, qu'est-ce qui fait que le sujet s'estime malade, pourquoi il se sent malade, hein? Et puis une maladie sociale, comment sont prises en compte les maladies dans la société? Il y a 3 mots en anglais, c'est fantastique, il faudrait qu'on ait 3 en France, n'est-ce pas? Et que la question d'une maladie d'une particulière gravité doit se décliner avec ces 3 notions de maladie-là. Maladie objet, maladie sujet et maladie sociale. Bon, le trisomie 21, je vais passer rapidement, mais c'est très emblématique, à mon avis. C'est très emblématique. Le CCNE et le rapport Touraine n'est pas à l'aise avec ça. Et on s'est beaucoup interrogé pourquoi cette seule maladie a été identifiée juridiquement à une maladie d'une particulière gravité alors qu'il n'y a pas de liste. Bon, un petit problème. Bon, à qui profitent les données numériques? Bon, j'ai donné. Quelle confidentialité des informations génétiques? Grand problème, je pense que nous sommes assez éveillés en France là-dessus. Les entreprises, les assurances, quel risque de stigmatisation, de discrimination de certaines catégories de personnes? Et puis, quel modèle de solidarité? Le CCNE voit bien le problème en disant, mais finalement, si on faisait tous notre génome très tôt, pourquoi les gens qui ont un bon génome, pourquoi ils ne s'associeraient pas entre eux et ils auraient une mutuelle spéciale? Ben écoutez, on va quand même pas payer pour ceux qui ont un mauvais génome, non? Je n'invente rien. Je n'invente pas. Avis du CCNE, note 99. Aujourd'hui, l'accessibilité rendue plus facile et peu onéreuse au séquençage de génome a été évoquée l'idée de personnes qui, ayant eu la preuve de leur excellent génome, pourraient se regrouper pour faire des mutuelles à faible coût, puisqu'à faible risque, ce qui constituerait une atteinte à la solidarité. Donc, il faut toujours prêter attention au modèle de solidarité que nous défendons. Toujours être très éveillé là-dessus. Bien sûr, les notions d'autonomie que nous mobilisons dans le débat, autonomie d'indépendance, ou une autonomie qui ne peut s'exercer qu'en lien avec autrui, puisque je suis autonome parce que je suis aidé par autrui, bon, des grands débats. Le rapport Touraine, je finis par là, ce débat avec la question « est-ce qu'elle est dérive eugénique ou pas ?» Alors le rapporteur dit qu'il en conscience, qu'il estime que toutes les craintes d'un potentiel eugénisme sont infondées. Hein, il n'arrête pas d'insister là-dessus. Bon, il est incapable de faire la distinction entre eugénisme d'État et eugénisme libéral. Je ne sais pas pourquoi il n'y arrive pas. Le Conseil d'État a très bien fait ça. Et puis pourquoi la notion même d'eugénisme est de dire qu'il y a des catégories, en fait, de futurs citoyens qui viennent pas au monde parce qu'on estime que c'est pas bien qu'ils viennent au monde, on n'est peut-être pas obligé d'employer le mot eugénisme, mais Didier Sicard, déjà en 2007, il n'hésitait pas à parler d'éradication sociale à partir de la trisomie 21 et 18. Bon, c'est pas, comment dire, le mot, enfin, vous voyez, des catégories, pourquoi des catégories comme ça, on peut dire elles sont stigmatisées, voilà. Pourquoi nous sommes devenus incapables collectivement d'un tel constat? Et alors là, bon, je finis par là parce que ça fait une touche d'humour un peu noire. Le rapport Touraine, il indique pourtant que concernant la trisomie 21, ça aboutit dans la quasi-totalité des cas détectés par DPN à une interruption médicale de grossesse. Alors dit-il que, je cite le rapport Touraine, le professeur Nizan reconnaît lui-même que la trisomie 21 est l'une des maladies génétiques les moins graves et que les trisomiques sont des enfants affectueux, heureux, qui ne se suicident pas et qui aiment la musique. Mais quand on lit ça dans un rapport officiel, est-ce qu'il faut... le critère, c'est à partir du moment où on est affectueux, heureux, non suicidaire, amoureux de la musique, on peut vivre sinon... Enfin, quand même, dans un rapport officiel, je trouve quand même... J'ai un peu de décence, je trouve quand même... Je suis très troublé par ce genre de propos. Quoi. Enfin, on ne se rend pas compte, quoi. On ne se rend pas compte. Voilà. Voilà, et puis, bon, ce que d'aucuns, ils dénoncent ce qu'aucun appelle une dérive eugénique. Bon, voilà. Et puis, voilà, je finis par là.
Alors, nous allons vivre un terrible moment de frustration parce que nous devrions déjà nous être séparés, nous pouvons nous donner un quart d'heure maximum pour des questions. Je vous rappelle que si vous voulez réécouter le débat, enfin les communications de ce soir, elles sont en accès libre très rapidement sur le site du Centre Sèvres. Donc comme ce sont des problèmes complexes qui méritent peut-être une réécoute, vous pouvez sur le site du Centre avoir accès au débat de ce soir. Donc Franck, il y a une question tout en haut là-bas. Je vous propose de prendre 3 questions et je vous demande surtout d'être concis dans la formulation de ces questions pour que les intervenants aient le temps de répondre.
Bonjour. J'aimerais savoir si d'après vous, au niveau international, il y a un organisme chargé de structurer ces règles d'éthique qui sont liées quand même à un rapport culturel et social complexe. Et si oui, quel est cet organisme-là ?
Allez-y, mon père. Allez-y, vous. Mon père, allez-y. Vous répondrez à cette question.
Vous pouvez dire aussi.
On va prendre 2 autres questions.
Oui, bonjour. Je voudrais savoir ce que l'un et l'autre, vous pensez des tests ADN dits récréatifs qui sont commercialisés par des entreprises telles 23andMe et MyHeritage.
Là, ici.
Moi, je voudrais avoir l'avis du professeur Munich sur le rôle des neuropédiatres. Les neuropédiatres, bon, en France, il n'y en a pas beaucoup, mais est-ce qu'il n'y a pas une communauté internationale, un congrès, une société internationale de neuropédiatres qui savent de quoi ils parlent quand ils parlent de maladies neurologiques? Et sinon, à titre et de déficit, qu'est-ce qui est toléré dans quel pays? Et j'ai été très étonnée, mais c'est pas moi l'oratrice, de ne pas entendre à une seule fois le mot souffrance. La souffrance des parents, il y a la souffrance des malades, mais la souffrance des parents, les couples qui se déchirent, c'est classique dans la trisomie 21 que le mari part dans 9 cas sur 10. Et le problème de l'autonomie. Donc est-ce qu'en fait, est-ce que c'est pas une autonomie qu'on recherche en France?
Merci. Il y a une main qui s'était levée ici, et puis vous, madame. Voilà. On va vous passer le micro. Le monsieur avec la. Vous en beige.
Oui. Ma question s'adresse au professeur. Le terme d'eugénisme est apparu dans l'exposé du père Santo. Est-ce que vous acceptez cette formulation, disons, polémique, alors que toute la démonstration que vous nous avez faite était que les tests que vous pratiquez avec naturellement de nombreuses précautions ont pour but d'éliminer le handicap et la maladie.
Et madame.
Voilà. Bonsoir. Donc une toute petite question. En fait, il y a de plus en plus de maladies rares qui sont diagnostiquées comme étant des gènes qui entraînent de l'autisme, comme la DNP, par exemple. Donc il y a beaucoup toutes ces anomalies génétiques, tous ces gènes qui sont de plus en plus diagnostiqués donc comme étant responsables de l'autisme. Qu'est-ce qu'on va en faire?
Bien, merci beaucoup. Alors, qui souhaite prendre le premier la parole?
Vas-y, mon père.
Bruno?
Peut-être sur la régulation internationale. Bon, il y a des conventions. La France a signé la convention d'Oviedo, par exemple. Donc il y a des conventions qui sont contraignantes encore. Au niveau international, on pourrait dire que les scandales comme ceux qui viennent de se passer en Chine, ça montre qu'il y aura un besoin de régulation internationale sur des dérives aussi de la génétique. Voilà. Le problème, c'est que les pays ne fonctionnent pas pareil. C'est-à-dire que on n'a pas la même éthique. Nous, on a une éthique très contraignante. Le code pénal sanctionne quelqu'un qui fait un examen génétique. Je crois que c'est 3 700 €, je ne sais plus combien. Dans le code pénal français, il y a une sanction si vous faites un examen génétique non autorisé. Donc, si vous ne passez pas par un médecin qui, lui, vous autorise et qui le validera, qui l'interprétera. Bon, comment vous voulez sanctionner quelqu'un qui envoie sa salive à 23andMe? Vous avez la petite image, là, n'est-ce pas? Alors, il y a la formule pour connaître ses ancêtres, n'est-ce pas, Ancestry Service, mais il y a la formule aussi santé. Voilà. Je vous ai mis ça, santé, avec, vous voyez, ici, le petit diagnostic génétique des probabilités qui sont données, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez envoyer votre ADN, là. Et comment vous voulez réguler ça? Si les gens ont vraiment envie de savoir. Mais une fois qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils en font? Alors, je suis allé voir la pub, c'était en décembre, parce qu'il y avait une pub sur 23andMe, donc il y avait des réductions. Et je suis allé voir, en fait, quelles étaient les clauses. Alors, je vous ai mis ça, vous voyez la petite image qui est vraiment intéressante. Donc vous pouvez avoir vos ancêtres, savoir où ils viennent d'où, de quel pays, si vous avez du sang asiatique, machin, bon bref, c'est vraiment intéressant. Et puis, vous avez donc le deuxième pack, vous savez, le pack qui est là, Ancestral Health, eh ben, vous avez aussi un rapport sur les maladies génétiques, avec notamment BRCA1 et BRCA2. Et puis des tas de choses. Est-ce que vous pouvez... maladie d'Alzheimer, Parkinson, etc. Vous voyez, tout ça est mentionné. Alors, ils ne sont pas fous, et ils précisent bien sur leur site que tous ces examens-là ne disent rien sur l'état courant de votre santé et ne doivent pas être utilisés pour prendre des décisions médicales. Vous savez, c'est le chef-d'œuvre de... On attire les gens, puis on a envie de savoir, et puis après on dit, une petite note, vous voyez, ces petites étoiles, je n'ai pas mis toute la petite étoile, on dit que bah, ça ne dit rien sur votre état de santé présent, et puis surtout, ça ne devrait pas servir pour prendre des décisions médicales. Mais qu'est-ce qu'on fera avec ça? Donc nous avons des systèmes, je pense, nous avons des systèmes aussi de rapport à l'autonomie du citoyen qui sont extrêmement différentes. Donc, des systèmes très libéraux, et puis nous, des systèmes de solidarité. Bon, alors il faut choisir, hein. Je pense qu'on ne peut pas avoir les deux. Enfin, je ne pense pas qu'on puisse être... voilà, je pense qu'on ne peut pas avoir les deux, quoi. Bon, j'ai assez réparé. Je ne sais plus les autres questions, mais l'eugénisme, oui, peut-être que je peux en dire un mot. Mais vous avez des textes de Pie XII, dès 1953, qui parlaient positivement de l'eugénisme comme moyen d'éradiquer des maladies. Donc il y a un eugénisme positif, voilà. Puis un eugénisme négatif, on élimine des gens, des embryons, etc. Mais l'idée que la science génétique puisse nous permettre d'éviter des maladies, ça peut être qualifié d'eugénisme positif, et c'est pas forcément c'est une bonne chose. Vous voyez, la grande question, et en tout cas pour l'éthique catholique, c'est que est-ce qu'on peut éliminer des embryons? C'est quand même ça la grande question. Bon, l'Église catholique est un peu la seule à tenir des propositions assez fermes sur le sujet. Mais ça ne manque pas de cohérence. Enfin, en tout cas, voilà, je pense que ça ne manque pas de cohérence. Et dire ça, c'est pas négliger la souffrance des familles et tout ça. Enfin, je suis bien placé pour savoir tout l'accompagnement qui se fait dans les aumôneries, l'accompagnement personnel, etc. Donc, c'est pas par négligence des souffrances des personnes. C'est par une haute valeur de la dignité de tout être humain qui commence à la conception. Bon. Alors après, on a des opinions différentes.
Professeur Munich.
Oui, je voudrais juste ajouter un élément à ce qu'a excellemment dit le Père Saint-Thau. D'abord, rappeler, madame, que la santé est du domaine de la responsabilité des États, et par conséquent, il y a des pays qui ont des lois de bioéthique et d'autres qui n'en ont pas. Nous avons une loi de bioéthique, la Belgique n'en a pas, l'Angleterre n'en a pas. Donc, ne serait-ce que cette question d'éthique ne fait pas consensus. On peut faire des directives, faire des recommandations, faire des beaux discours, mais en fait, on a des positions, des postures radicalement différentes entre le monde latin et le monde anglo-saxon. C'est très difficile de prétendre légiférer au niveau européen ou international quand on a des postures aussi différentes, ne serait-ce que par rapport à la perception du risque dont je vous parlais pour la mastectomie bilatérale. On n'a pas 50% de mastectomie bilatérale sur des vous en France. Donc vous voyez, les postures changent, et c'est bien pourquoi il n'y a pas de loi de bioéthique universelle. Je voulais vous dire, les tests récréatifs, il s'agit de s'amuser avec la génétique. C'est une façon de la banaliser et de vider ce qu'on a discuté ce soir de tout son sens. Et ces tests récréatifs, consistent à connaître ses origines ou trucs comme ça, ils sont nés de l'échec de 23andMe qui a voulu diffuser des tests diagnostiques. Donc ça lui aurait été interdit. La FDA a interdit ces tests, donc ils se sont massivement rabattus sur ce que vous appelez des tests récréatifs. Mais c'est une façon très astucieuse de banaliser et de préparer l'opinion à la généralisation de ces tests. Et je trouve que c'est d'une grande perversité. S'agissant de l'eugénisme, monsieur, pour moi, l'eugénisme, c'est une démarche coercitive et d'État. C'est une politique d'État coercitive. C'est pourquoi je ne crois pas, mais on avait parlé avec le Père Saint-Thau, je ne considère pas qu'une démarche individuelle, volontaire, rentre dans le cadre de l'eugénisme. Dès lors que c'est la demande d'un sujet, d'un couple, à qui on n'impose rien et qui voudrait s'informer. Donc il faut bouger un petit peu, il faut arriver à bouger. Et je ne pense pas que le carrier screening, lorsqu'il est individuel, tombe sous le coup de l'eugénisme. C'est mon avis. Pour moi, l'eugénisme, c'est une démarche politique d'État. Ce n'est pas ce qui est en train de se préconiser. Un tout petit mot pour les gènes de l'autisme. Vous avez raison, madame. Il y a aujourd'hui, sur notre panel d'enfants testés pour l'autisme, il y a 440 gènes, dont ADNP, que vous connaissez bien. Mais il y en a beaucoup d'autres. Et alors, vous dites, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est une excellente question. Et je veux dire, d'abord, pour des parents d'enfants autistes, savoir enfin ce dont souffre leur enfant, c'est une délivrance. Déjà, la nomination du mal, c'est extraordinaire. Ça donne aux parents la possibilité de surmonter par la pensée l'épreuve qui les a frappés, de rejoindre des groupes de parents, de s'informer de la littérature, même les professionnels portent un regard différent sur l'enfant. Savez-vous que il m'arrive très souvent d'avoir des difficultés de prise en charge d'un enfant autiste, et tout se simplifie lorsqu'on trouve la cause de cet autisme. Tout d'un coup, il commence à avoir une existence. Il apparaît, il existe à partir du moment où on met un nom sur sa maladie. Avant, il n'existait pas. La simple nomination fait fonction de statut, si vous voulez. Comme si on s'inclinait devant la souffrance, vous parliez de souffrance, comme si on rendait justice et dignité par la nomination. Donc nommer le mal, c'est déjà pour les parents la possibilité de surmonter l'épreuve, et c'est pour la société, pour une raison que je ne comprends pas, les choses se passent mieux lorsqu'on a mis un nom sur une maladie. Et effectivement, il y a des groupes de parents qui se constituent, parce que 440 gènes, vous imaginez que ça fait beaucoup de causes différentes et beaucoup de groupes de parents différents. Et il y a maintenant des stratégies éducatives et rééducatives qui sont guidées par les diagnostics. Donc le diagnostic permet de définir une trajectoire pour l'évolution de ces enfants et de les prendre en charge beaucoup mieux. Et enfin, je vais vous dire qu'il y a les premiers essais cliniques maintenant dans des autismes, vous savez, les mutations la bohème, TOR, PTEN, etc., où quand on a porté le diagnostic, on peut se retrouver dans un essai clinique avec un médicament. Donc, même le champ de l'autisme va être investi par la science, dont elle était absente jusqu'à ce jour. Perrine.
Quand tu dis autisme, en fait, l'autisme, c'est un symptôme.
Oui. Exact. L'épilepsie. Si on peut dire, l'épilepsie, c'est un
symptôme. Mais c'est le symptôme qui donne. Entre le symptôme et la maladie, et qui explique mieux l'hétérogénéité des étiologies quand on parle de cette façon-là.
Tout à fait vrai. Mais ils sont formidables, les neuropédiatres. Comment faire pour qu'ils soient plus nombreux? On va les cloner. Non, mais pourquoi?
Monsieur qui a le micro et monsieur ici au troisième rang. Voilà.
Je voudrais poser une question au professeur Munich concernant l'épigénétique, ce terme dont on parle de plus en plus, qui consiste...
Vous pouvez parler bien dans le micro fort, s'il vous plaît. Non, il marche, mettez-le près. Voilà.
Oui, je voudrais parler donc de l'épigénétique et je voudrais savoir si des faux positifs dans les tests génétiques peuvent s'interpréter par l'épigénétique, puisque finalement ces tests génétiques décèlent des mutations dans l'ADN, mais tout ce qui se passe dans la traduction, la transcription et la traduction des gènes n'est pas pris en compte dans le test génétique. Donc s'il y a une modification dans l'épissage, dans la traduction et la transcription...
Très bien, je crois que la question est comprise. On prend une toute dernière question ici, vous allez avoir le micro. Merci pour votre aide. C'est devant vous, ici. Voilà.
C'est Gérard Ponceau.
Je vais demander au docteur Munich, est-il imaginable, est-il souhaitable de continuer actuellement des recherches pour un jour réparer le génome? Et je voudrais demander au père Saintot une deuxième question. Dans tout ce que vous venez de nous dire d'important, de remarques sur l'eugénisme, dans cette folie un petit peu libérale pour l'instant du rapport de l'Assemblée nationale, comment l'Église, qui est dans son rôle quand elle défend la vie, je trouve qu'elle a un problème, comment peut-elle nous présenter une remarque, un conseil, une réflexion qui soit acceptée par tous les catholiques, mais plus acceptée, qui fasse réfléchir tous les catholiques, plus le monde, les scientifiques, car je trouve que vous avez eu par moments des messages pas tout à fait adaptés, la contraception, la PMA, etc.
Je n'ai pas parlé de la contraception. Je n'ai pas parlé de la contraception. Oui.
Non, l'Église. Alors, vous répondez à la question?
Oui, et puis je demanderai à Gérard de repréciser la question, parce que je ne suis pas sûr d'avoir compris ta question. La première partie de la question.
Je demande, la première partie,
oui.
Si tu penses qu'il est imaginable et souhaitable
de poursuivre
actuellement de continuer les recherches, ça fait un peu appel, bien sûr, pour pouvoir un jour réparer le génome. Je n'ai pas dit modifier, augmenter, réparer un gène.
Je crois qu'on ne pourra jamais empêcher un chercheur de chercher. Tu peux toujours courir.
Souhaitable.
Moi, je crois que... Je mets à part la recherche sur l'embryon qui me pose d'énormes problèmes aussi. Mais la recherche thérapeutique pour un enfant malade, je vois aucune raison de la limiter. Aucune. Tout récemment, il y a eu même des expériences dans notre institut, imagine, où Marina Cavazzana a mis en évidence des techniques nouvelles, CRISPR-Cas9, donc ciseaux moléculaires, pour... modifier le gène de l'hémoglobine dans le but d'améliorer vraiment le sort de ces enfants drépanocytaires. Donc elle a commencé à utiliser vraiment les ciseaux moléculaires dans une indication médicale dans le but de bien faire. Là, ça peut être à la fois terrible comme l'exemple qu'a rappelé le père Saintot avec ces manipulations sur l'embryon pour utiliser les en Chine. Mais quand il s'agit d'améliorer la santé d'un enfant, je crois que aucune approche n'est répréhensible a priori. Ce qui me pose problème avec les ciseaux moléculaires, c'est qu'on sait parfaitement, mais on ne le dit pas, que quand on introduit ou on supprime une variation, on en crée ou on en supprime des milliers à côté. Donc c'est là l'escroquerie. Je crois que les intentions sont bonnes, aussi bien les tiennes que les nôtres ce soir. Mais le problème, c'est qu'il est fait une récupération mercantile de tout ça pour faire gonfler des start-up, alors qu'on fait croire aux gens que ces ciseaux moléculaires sont pour demain. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'on peut le faire et nous le faisons dans les laboratoires, mais on ne peut pas utiliser ces ciseaux moléculaires auxquels tu fais référence en application thérapeutique. C'est trop risqué. Les grands spécialistes le disent. Mais leur voie est couverte par des ghostwriters qui veulent absolument contribuer à faire gonfler la bulle. Il y a une histoire de bulle financière derrière toutes ces questions qui est insupportable. Mais tant que les malades sont devant nous, je ne parle pas des embryons, tant que les malades sont là devant nous, il faut tout faire pour se battre pour les soigner. Sous réserve des règles éthiques que tu connais parfaitement dans des essais cliniques.
La question qui était
sur le génie, sur l'épigénétique. Alors, je répète, je reformule la question telle que je l'ai comprise, monsieur. Vous m'objectez que si on trouve parfois des mutations dans des gènes pour de l'autisme, par exemple, quand on n'en trouve pas, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on trouve, c'est que c'est ça. Si on trouve pas, est-ce que c'est des mutations ailleurs ou est-ce que ça peut être épigénétique? C'est la grande question qui se pose à nous en clinique. Si on trouve, on est content, on trouve dans 28% des cas maintenant dans l'autisme, près de 30%, une mutation causale, 30%. plus 10% d'anomalies cytogénétiques, ça fait pas loin de 40%, surtout dans les formes déficitaires et syndromiques. Que dire quand on ne trouve pas? C'est ça votre question. Alors si on ne trouve pas, c'est ou bien effectivement une anomalie génétique ailleurs, soit effectivement cette manche, ce manchon qu'on appelle l'acrobatine, qui est comme le fil du câble de mon micro là, qui entoure l'ADN et qui le protège, lui permet de s'ouvrir et de se fermer. Et on sait maintenant qu'il y a des anomalies épigénétiques, donc cette gaine, qui peuvent causer des autismes. J'en prends deux ou trois exemples. Le valproate, je parle sous le contrôle d'un grand neuropédiatre, on le sait maintenant que c'est une cause d'autisme. La cocaïne, voilà une cause de modification épigénétique comme le valproate, comme la dépakine, qui cause de l'autisme. Donc je suis absolument convaincu qu'il y a des causes épigénétiques, donc qui sont pas dans le brin d'ADN, mais qui sont dans l'environnement, qui causent de l'autisme. Le vrai problème, monsieur, c'est que c'est pas possible de le prouver facilement. Il faudrait faire une biopsie cérébrale et montrer l'anomalie épigénétique dans le cerveau. On peut le montrer dans le tissu gras, dans une tumeur, mais pas dans le cerveau. Alors, comme on n'arrive pas à le prouver, ça permet à des tas de gens de dire n'importe quoi. Et tout le monde est content.
Bruno, le mot de la fin.
Mais non, c'est je voudrais répondre à la question, enfin tenter de dire quelque chose sur la position de l'Église catholique. Faut commencer par le bien. Enfin, l'Église catholique, elle a toujours été, dès qu'elle a pu, enfin l'Église, forcément catholique, dès le début, quand les chrétiens ont eu la possibilité de faire quelque chose au niveau politique, ils ont fait des hôpitaux, des hospices, des hôpitaux. Voilà, dès le 5e siècle. Bon. Donc la question de la santé est au cœur de l'action, on pourrait dire, au cœur de l'action de l'Église, tant qu'on peut aider les gens, se tenir dans tous les lieux de souffrance. Et c'est pour ça qu'il faut toujours rendre hommage aux soignants. Moi, je rends hommage à tous les gens qui accompagnent aussi dans des situations très compliquées. C'est-à-dire, on tente de le mettre de l'humanité là où la souffrance est en train de détruire les gens. Les catholiques, ils sont là-dedans aussi. Hein. Et les catholiques à la pitié qui font du voilà qui accompagnent les gens, enfin il y en a partout, voilà. Bon, donc je pense qu'il faut faire une distinction entre accompagner le tragique de l'existence, où les gens se trouvent dans des situations tragiques, écoutez, on fait le mieux qu'on peut. Les situations tragiques, une maladie extrêmement grave, on fait ce qu'on peut et on va pas blâmer ce couple là parce qu'il prend la décision de faire une IMG, on l'accompagne, voilà. On tente de mettre de l'humanité là où il y a la plus grande souffrance. Ça me paraît quand même le message à la fois du Christ et de l'Église. Voilà. Donc l'accompagnement. Et puis aussi être très attentif aux effets, j'allais dire, aux effets sociopolitiques de nos décisions. Vous voyez, donc on peut être cohérent en disant on va se tenir dans tous les lieux de souffrance et tenter de mettre de l'humanité là où la souffrance risque de déshumaniser les gens. Voilà. Et donc les maladies génétiques, c'est un lieu comme ça. Tout en étant attentif aux répercussions sociopolitiques des grandes décisions éthiques et juridiques qui sont prises. Et c'est pas incompatible. On peut se tenir dans les lieux de souffrance et faire comme on peut. Voilà. Avec les couples et leurs difficultés, on les accompagne comme on peut. De toute façon, c'est eux qui décident, c'est pas nous. Enfin, voilà. Bon. Moi, quand je fais de l'accompagnement, c'est pas moi qui décide, évidemment. Voilà. Et en même temps, être très attentif sur les effets sociaux et politiques. Donc, et dans les effets sociopolitiques, il y a quand même deux marqueurs, et puis c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Conseil d'État quand il souligne la cohérence du modèle bioéthique français. Il parle de la dignité et il parle de la solidarité ou de la fraternité, si vous voulez, comme deux références centraux avec la liberté. On peut montrer la cohérence entre accompagner et puis être attentif aux effets sur la dignité des personnes, qui on respecte, pourquoi, qui on stigmatise ou on stigmatise pas. Voilà, je trouve que c'est quand même drôlement intéressant de voir ça. Qu'est-ce que ça produit sur le corps social et le corps politique quand les petits sont déconsidérés, etc. Ça produit quoi? Ça produit quel type de société? Vous savez, il y a plein de recherches autour de la fraternité actuellement. Le Conseil d'État a publié un beau rapport sur la citoyenneté dans lequel il fait un diagnostic sur le manque de valorisation de ce troisième terme de la devise de la République, la fraternité, et il dit là il y a quelque chose à travailler. Le Conseil d'État dit un peu la même chose en soulignant l'importance de la solidarité. Je pense que l'Église, elle dit pas autre chose, quoi. À mon avis, à longueur de rapport, si vous lisez les textes, elle n'arrête pas de dire ça. Et que tout est à penser en fonction d'une fraternité, donc une manière de se tenir avec nos vulnérabilités dans le corps social. Voilà, d'être aidé parce qu'on est vulnérable. Voilà. Et alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de caricatures sur la position de l'Église, mais j'allais dire, commençons par distinguer les choses. La contraception, c'est pas la même chose que l'IMG ou l'IVG, c'est pas la même chose. Enfin, il faut distinguer sur les niveaux de gravité. Alors, non, si on dit, les cathos, ils sont contre tout, voilà, on peut même pas discuter avec eux parce qu'ils n'ont pas de raison, n'est-ce pas? On peut en raison s'adresser à d'autres personnes et dire, soyez attentifs, comme le dit le Conseil d'État là, hein, mesurez l'impact des décisions envisagées sur les catégories les plus vulnérables de la société. Je pense que c'est ce que fait l'Église à longueur de rapport. Hein. Alors, il y a des sujets polémiques, la contraception, etc. Mais moi, je soulignerai l'impact sur la question de vivre ensemble. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la première question qui inaugurait les états généraux de la bioéthique. Quel monde voulons-nous pour demain? Comment allons-nous nous tenir ensemble avec nos vulnérabilités, nos fragilités, ensemble, dans l'affrontement à la maladie, la souffrance, et puis ultimement la mort, quoi. Voilà. C'est comme ça que j'essaierai de définir la position légale.
Bien, merci beaucoup. Merci Bruno, merci à vous deux. Pour avoir surtout introduit, je crois, beaucoup de clarté dans un sujet extrêmement compliqué. Alors, n'oubliez pas en sortant que vous avez des corbeilles pour nous aider à poursuivre l'organisation de ces mardis d'éthique publique. Et le prochain mardi sera le 12 mars, donc après les vacances scolaires de la zone C. Et ce mardi 12 mars, le thème sera « L'Europe entre héritage chrétien et pluralisme religieux ».